Fait que bienvenue.
Bien, merci beaucoup.
C'est, ça part de même, parfait.
Bienvenue, merci de, beaucoup d'être là. On voulait faire une partie 2 un peu du podcast qu'on a fait avec Sonia parce que les gens l'ont vraiment, vraiment apprécié. Puis je pense que...
Nous aussi.
puis Sonia, t'sais, comme on disait tantôt, est extraordinaire, là, vraiment.
Vraiment.
Puis le sujet aussi touche... tout le monde, presque. En fait, tout le monde produit des hormones de stress dans sa vie à un moment donné ou à un autre. Puis c'est un sujet qui est vraiment, je pense, important à savoir comment dealer justement avec ces hormones de stress-là, puis comment percevoir le stress. Je pense que c'était une des choses qui ressortait beaucoup du discours de Sonia, c'est d'arrêter de voir le stress comme quelque chose de négatif. Mm-hmm. Puis d'apprendre à le gérer, parce qu'on ne réussira jamais dans notre vie à se couper de toute source de stress, c'est impossible, là, même que c'est pas souhaitable, je pense. Là, t'sais.
En effet.
Puis, donc, toi, tu as été un étudiant, finalement, de Sonia?
Oui, donc, j'ai passé 10 ans avec Sonia. J'ai commencé mon baccalauréat avec...
Tu peux t'approcher juste un petit peu du micro, là.
Je la vois...
Ou approcher le micro vers toi, là.
Voilà. Moi, j'ai la voix un peu comme un crapaud, donc...
Tu peux le descendre un peu, il n'y a pas ce typo, je le vois dans le visage.
Oui, j'ai commencé comme bénévole au bac, puis après j'ai fait une maîtrise en neurosciences avec elle, puis après un doctorat.
Puis ta maîtrise a porté exactement sur quoi?
Donc au début, c'était vraiment le stress chronique et le vieillissement. Et après ça, c'était le stress chronique et l'épuisement professionnel. Puis à l'intérieur de ça, on s'est vraiment intéressé à comprendre les différences hommes-femmes, les différences de sexe, les différences de genre. Ouais.
Qui est la question sur laquelle on s'est un peu laissé avec Sonia. Dans le fond, tu sais, à la fin du podcast, on est arrivé sur ce terrain-là. Puis Sonia a dit, vous inviterez Robert, puis vous parlerez de ça, tu sais. Mais avant peut-être qu'on saute à pieds joints dans ce sujet-là. Comme on disait tantôt, peut-être que ça peut être intéressant de... Peut-être quelqu'un qui n'aurait pas écouté le podcast avec Sonia ou qui aurait besoin d'un rappel, peut-être qu'on pourrait faire un espèce de tour des notions clés, mettons, qu'on a déjà peut-être mentionné avec Sonia, faire un genre de résumé, puis après ça, on pourra étendre la discussion sur des nouveaux territoires, mettons.
Donc,
là,
génial. Donc, juste pour commencer, Sonia Lupien est vraiment la reine du stress au Québec. C'est elle qui m'a formé. Toute sa carrière est vraiment dédiée à comprendre comment les hormones de stress, donc le cortisol, se manifestent chez du monde, des jeunes, des plus vieux. Puis le but, finalement, de toute cette recherche, c'est de comprendre les différences individuelles. Donc, qui est le plus vulnérable à développer des problèmes de stress? Mm-hmm. Et aussi, qui est plus résilient? Donc, n'importe qui va avoir une réponse de stress, donc combattre ou fuir, on va avoir une augmentation d'hormones de stress. Puis, essentiellement, le cortisol va transformer le gras en sucre pour donner notre corps l'énergie pour être capable de combattre ou de fuir. Intéressant, il y a un concept théorique qui dit que les femmes n'auraient peut-être pas nécessairement la réponse combattre ou fuir. Ça serait plus une réponse de protection et affiliation. Donc, en anglais, tend and befriend. Donc, ça, c'est super intéressant qu'avec l'évolution, la réponse de stress serait peut-être différente entre les hommes et les femmes.
OK. Mais donc, le stress, essentiellement, c'est de l'énergie, finalement.
Exactement.
C'est ça, c'est de l'énergie qui finalement, qui est transformée, qui est comme un peu sécrétée dans le corps, puis qui doit être canalisée, finalement.
Exactement. Puis comme Sonia a dit, tu sais, on a absolument besoin d'arrêter de parler de stress comme quelque chose de mauvais, parce que ça a vraiment permis notre espèce de continuer.
On serait plus là aujourd'hui, là, c'était pas du stress.
Exactement. Ouais. Donc, Sonia souvent va dire que n'importe qui vous êtes, si vous avez une situation qui est essentiellement où tu as un manque de contrôle, si elle est nouvelle, si elle est imprévisible, si elle menace à votre ego, vous allez avoir une réponse de stress biologique.
Donc, les quatre, c'est ça, c'est sentiment de perte de contrôle, nouveauté, imprévisibilité, puis menace à l'ego.
Exactement. Moi, je pense que le dénominateur commun avec tout ça, c'est le contrôle.
OK.
Sonia pense que, tu sais, le sens de la personnalité menacée, c'est pas exactement le contrôle, mais c'est lié un peu. Tu sais, si quelqu'un met en question ta capacité de bien performer, c'est que tu as perdu un peu le contrôle
de ton image, du moins.
Hein. Exactement. Mais qu'est-ce que j'aime beaucoup de la recette de Sonia, c'est que ça aide à vraiment placer un peu qui est plus sensible à certains ingrédients. Donc, moi, par exemple, la nouveauté, je déteste ça. Donc, c'est quelque chose que, sachant ça, j'essaie de me contextualiser avec mes nouvelles environnements pour me déstresser.
OK. Est-ce que c'est Sonia qui est arrivée avec ces quatre-là ou c'est quelque chose qui est dans la communauté scientifique qui est depuis longtemps établi?
C'est Sonia qui l'a vraiment mis en place comme outil pour le grand public. Okay. Les recherches de John Mason qu'elle a parlé, c'était un psychologue qui s'intéressait à comprendre c'est quoi les facteurs psychologiques qui vont induire un stress biologique chez le monde. Donc, lui, il s'intéressait aux parachutistes, donc ceux qui allaient pour la première fois versus les vétérans. Donc, il exposait le monde à des situations toujours différentes. Donc, on s'entend que le vétéran n'a pas la même réponse de stress qu'un newbie. Donc, lui, s'est vraiment intéressé de comprendre c'est quoi les facteurs, puis c'est vraiment le contrôle qu'il lui a concentré dessus.
Okay.
Il y a d'autres recherches par des chercheurs par le nom de Dickerson et Kameny qui ont fait une revue de littérature pour comprendre un peu c'est quoi les ingrédients qui vont stresser le monde quand on les amène dans le laboratoire. On peut pas dire qu'est-ce qu'on fait dans le laboratoire parce que...
Sinon, le monde arriverait moins stressé.
Exact. Mais qu'est-ce qu'ils ont conclu? C'est que social evaluative threat, donc la menace socio-évaluative, fait en sorte qu'on va avoir une réponse de stress dans un laboratoire. Donc, Sonia a pris cette information-là puis elle a dit, écoute, c'est l'imprévisibilité, c'est la nouveauté, c'est le manque de contrôle, c'est la menace à l'ego. Puis elle a vraiment ressorti cette belle recette pour le grand public.
Mais est-ce que, mettons, tu sais, Sonia disait, mettez-moi au défi, essayez d'en trouver un cinquième, vous n'y arriverez pas, tu sais. Je pensais à ça, là.
Ah oui, vas-y.
Non, mais est-ce que vraiment un réel danger physique, ça serait pas une... Tu sais, mettons, l'autre jour, je faisais Québec-Montréal, ça, sur la 20, en pleine tempête de neige, je glissais partout, il y avait des chars des deux bords de la rue, j'étais stressé en maudit, tu sais. Est-ce que ça, quand c'est vraiment... Est-ce que ça serait pas une source de stress, de dire juste dire un danger, point, tu sais?
Je pense que ça, c'est plus la peur.
Okay.
Puis si jamais vous voulez d'autres personnes qui ressortent du bassin de riche de Sonia, c'est Marie-France Marin,
okay,
qui est une de mes collègues. On était dans la même cohorte avec Sonia. Puis elle s'intéresse vraiment à décortiquer la différence entre la peur et le stress.
Okay.
Puis elle a actuellement des études où elle regarde des parents qui ont été exposés à un trauma pour voir à quel point les enfants puis les adolescents... développe des conditionnements vis-à-vis la peur. Donc, je dirais que ta réponse de stress que tu as eue, oui, c'est naturellement une réponse de stress, mais c'est vraiment une réponse de peur. Tu sais, ça arrivait super vite. Ça arrivait dans l'espace d'une couple de secondes que tu t'es dit, oh, fuck, excuse-moi.
On est sur fuck. Internet. Là.
donc, tout ce axe-là, c'est vraiment plus l'adrénaline puis la neuroadrénaline. Donc, Sonia avait mentionné ça, le sentiment que tu vas mourir, c'est vraiment plus ce axe-là. L'axe de stress puis tout qui est cortisol va venir après plusieurs minutes pour continuer la réponse de stress. Ouais.
J'ai été stressé tout le long, mais j'imagine que c'est aussi... j'imagine que la facteur imprévisibilité...
Ouais, puis il y a vraiment... la perte de contrôle aussi, ouais, quand tu sens qu'il y a de la glace sous tes pieds. Puis que...
Exact. Fait, ouais,
en fait, c'est littéralement, tu sais, quand un char prend le clos, c'est littéralement une perte de contrôle. On appelle ça littéralement une perte de contrôle.
Ouais.
Mais tu sais, la peur puis le stress, c'est très semblable.
C'est des cousins. Hein?
Oui, puis c'est beaucoup de neurobiologie semblable, mais c'est quand même des axes un peu différents.
Mm-hmm.
Puis tout qui est vraiment un stresseur physique, c'est comme ça qu'on a vraiment connu le concept du stress. Donc, un peu d'histoire. C'est un chercheur par le nom de Hans Selye, à l'Université de Montréal. Il était à McGill avant, mais on va oublier ça. Lui, il s'intéressait à vraiment exposer tous des rats à des stresseurs. Mm-hmm. Il a commencé sa carrière vraiment avec plus les hormones sexuelles, puis il y avait un genre de cocktail qu'il voulait regarder en lien avec, je pense que c'était le vieillissement. Puis c'était un homme brillant, super productif. Je pense qu'il était nominé pour le Nobel, je pense, 6 fois, il l'a jamais eu.
Quand tu dis un cocktail... De quoi tu parles?
C'était comme un genre de molécule ovarien. Je pense que c'était comme une version d'estrogène. Et puis, s'intéressait à un niveau pharmacologique de comprendre si ça avait des effets sur ses rats.
Mm-hmm.
Mais il était pas très bon avec ses rats. Il les échappait. Puis, avec le temps, les rats commençaient à développer des conditions un peu bizarres. Puis, c'est avec cette recherche qu'il a vraiment créé le terme « stress » en biologie pour parler de vraiment comment n'importe quel stresseur physique non spécifique aurait une réponse qui appelait le General Adaptation Syndrome. Donc, le corps, au début, va avoir une augmentation d'hormones de stress, puis avec le temps, il va avoir une fatigue qui se passe. Donc, toute sa carrière était dédiée à vraiment comprendre comment le stress physique aurait un effet sur les hormones de stress. Puis c'est John Mason qui a pris ça en psychologie. Il a dit, écoute, je crois pas que c'est juste n'importe quelle situation qui va stresser le monde. Il doit avoir des facteurs psychologiques, non physiques, qui peuvent amener une réponse de stress. Mm-hmm. Puis c'est là que toute la domaine dans lequel Sonia, puis moi, puis Marie-France fait partie.
C'est super intéressant. Et moi, je veux qu'on revienne un petit peu sur quelque chose que tu disais plus tôt. Tu disais que tu travaillais sur, puis ça fait deux fois que tu le mentionnes, tu disais que tu travaillais sur le stress par rapport au vieillissement. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Le vieillissement, j'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts, là, mais le stress chronique, j'imagine, a des effets sur le vieillissement. Absolument. De l'humain. Peux-tu nous parler plus,
ouais,
de ça?
Puis je retourne encore à Sonia, parce que c'est, comme j'ai dit, c'est vraiment la reine du stress. Sonia a travaillé avec un chercheur pendant son postdoc, Bruce McEwen. Bruce McEwen, c'est vraiment le grand-père. Il y a Hans Selye, puis il y a Bruce McEwen. Puis Bruce McEwen...
Hans Selye, est-ce que c'est l'arrière-grand-père ou c'est deux grands-pères?
Le great-grandfather, ouais.
C'est okay. Le grand-père et papy.
Ouais. C'est vraiment comme le fondateur de la maison stress.
OK. Okay.
Puis Bruce McEwen, il était à l'Université Rockefeller. Malheureusement, il est décédé au début de l'année passée. C'est une grande perte pour la science. Bruce a formé tout...
Est-ce qu'il était actif jusqu'à la fin?
Oui, jusqu'à la fin, puis il continuait.
Il était encore pertinent.
Oui, absolument. Puis écoute, je pense que beaucoup de chercheurs meurent dans leur laboratoire.
Ouais, parce c'est que ça. C'est l'œuvre de leur vie. Là.
Mais on est passionné, tu sais, il n'y a pas de retraite qui existe. Qu'est-ce qu'on va faire à une retraite, là? Donc, Bruce McEwen a formé tous les grands scientifiques de stress. Donc, il y a Sonia Lupien, il y a Michael Meaney, qui est un grand chercheur à Montréal sur les épigénétiques. Il y a plein d'autres chercheurs comme Robert Sapolsky, qui est un super bon vulgarisateur de tout ce qui est stress et science. Qu'est-ce que Sonia a fait avec Bruce? C'est qu'elle a pris toutes les connaissances de stress chez les rats. Elle les a appliqués chez les humains. Puis une des plus grandes découvertes qu'elle a fait au début de sa carrière, c'est qu'elle était capable de démontrer que du monde vieux qui ont une augmentation d'hormones de stress, donc le cortisol, pendant une période de temps, ont une diminution du volume hippocampique dans leur cerveau de 14 %. Donc l'hippocampe, c'est une région du cerveau très importante pour la mémoire, la cognition, la contextualisation d'une situation. Puis c'est la première région qui est affectée par l'Alzheimer's. Mm-hmm. Donc, la relation entre le stress puis la démence était vraiment ressortie de cette...
Puis cette relation-là est ressortie de quelle façon? C'était quoi le constat?
Donc, imagine que tu es Bambi dans la forêt, puis tu rencontres un ours... T'as besoin d'avoir une réponse de stress, mais il faut aussi se souvenir où ce ours se trouve dans la forêt. Donc, cette région du cerveau, l'hippocampe, est impliquée dans toute cette contextualisation, mais aussi avec la régulation du stress. Donc, quand on a une réponse de stress, puis le cortisol circule un peu partout dans notre sang, ça retourne au cerveau, puis ça va activer, ça va interagir avec des récepteurs dans l'hippocampe. Puis l'hippocampe va actuellement fermer l'axe de stress. Donc, si tu es quelqu'un qui a été stressé chroniquement, puis ton hippocampe devient plus petit, ta capacité de fermer ta réponse de stress va être affectée. Puis qu'est-ce qui est super intéressant, c'est que l'hippocampe, Sonia faisait partie d'un réseau qui s'appelait le Hippocampal Mafia, parce que c'était la région dans le monde, dans lequel le monde se concentrait le plus dans le domaine de stress, parce que c'est une région vraiment dans le centre du cerveau, c'est assez facile à caractériser pour l'imagerie cérébrale, mais il y a d'autres régions, donc il y a l'amygdale qui est super important, le cortex préfrontal, donc où j'allais avec tout ça?
Ben, mettons on parlait de longévité aussi, puis de comment ça affectait vieillissement, le vieillissement. Ouais, c'est ça.
Donc, cette découverte que Sonia a faite, écoute, ça a été une grande découverte pour la domaine. Puis, il y a beaucoup de monde qui s'intéresse à la relation entre le stress et la démence, mais c'est vraiment compliqué parce que dans certaines conditions reliées à la démence, souvent, on va voir les niveaux de cortisol qui sont très, très élevés, mais il y a d'autres conditions où c'est très, très bas. Donc, c'est très difficile à comprendre c'est quoi l'interaction, c'est quoi le mélange de biomarqueurs qui va faire en sorte que quelqu'un va avoir des petits troubles cognitifs, mais qui va devenir Alzheimer's. Donc, c'est le cortisol est vraiment... Qu'est-ce qui est vraiment important dans tout ça, c'est que les hormones de stress, c'est vraiment la première partie d'une réponse de stress. Mais avec le temps, on va avoir un effet domino sur plein d'autres biomarqueurs. Mm-hmm. Donc, le cortisol va avoir un effet sur le système immunitaire. Le système immunitaire va avoir un effet sur nos cholestérol. Le cortisol est produit avec le cholestérol, donc on va chercher de la nourriture pour augmenter nos niveaux de cholestérol. Ça va augmenter notre glucose, ça va augmenter notre pression artérielle, ça, on va mettre du gras. Donc, il y a toute cette constellation de changements mm-hmm. qui se fait à un niveau biologique. Puis ça, c'est qu'est-ce que j'ai commencé ma carrière avec Sonia, de regarder tout ce réseau de biomarqueurs qui devient déréglé avec le temps.
Puis ça, c'est tous les points que tu viens de nommer, c'est des points, c'est des effets sur la santé qui sont négatifs, en fait. Puis, dans la perspective où est-ce que Sonia dit qu'il faut arrêter de voir le stress comme quelque chose de négatif, comment qu'on raccorde ces deux choses-là, en fait? Parce que, en fait, j'imagine que, comme on disait plus tôt, le stress a une fonction, ça c'est sûr. Puis c'est quoi ses effets positifs? Puis comment qu'on évite ces effets négatifs, tu sais, mettons. Puis peut-être qu'après ça, on retournera dans le plus technique, mais tu sais, mettons, pour les gens qui nous écoutent, qui ont besoin de trucs là, sur comment justement éviter toutes sortes d'effets négatifs sur la santé, c'est quoi les trucs qu'on peut donner, mettons?
Écoute, si je connaissais la réponse à ça, je serais millionnaire.
Okay.
Je pense que l'essentiel, c'est vraiment de trouver une façon de pas nécessairement relaxer, mais d'être capable de fermer la réponse de stress. Donc, si on est quelqu'un, par exemple, qui a la tendance d'être stressé puis de ruminer, ouais. Puis avec la rumination, on va commencer à boire plus ou on va manger mal... qu'est-ce qui va arriver, c'est que notre réponse de stress va continuer. Donc, de trouver des manières de fermer l'axe de stress, c'est l'essentiel. Puis chaque personne va avoir une façon différente de le faire. Donc, Sonia, elle parle souvent de prendre une marche avec son mm-hmm. chien
ouais.
D'une heure. Ça, c'est sa façon de gérer son stress. Pour moi, c'est souvent c'était de boire de l'alcool. J'essaie de pas faire ça cette année. mais
c'est ouais, okay.
Aller au gym. Moi, écoute, quand je suis sur mon elliptical machine, j'appelle ça mon epileptic parce que je pense à toutes les affaires qui me stressent puis que je suis en colère, puis je suis comme, j'y vais, puis j'y vais.
Tu libères ça.
Ouais, puis c'est des fois, le monde vient me taper, puis dit « Hey Rob », puis je suis comme « Qu'est-ce que tu veux? » Donc, pour moi, c'était vraiment le cardio que j'aimais faire quand les gyms étaient ouverts. Je pense n'importe quelle situation, n'importe quelle activité qu'on fait qui nous fait oublier un peu nos stresseurs, ça va aider à diminuer la réponse de stress. Puis juste pour retourner au fait de stress, c'est une bonne chose,
ouais.
Je vais introduire un concept qui s'appelle l'allostasie.
Okay.
Donc, l'homéostasie, c'est un concept très classique en biologie. Donc, notre sang va jamais dépasser un certain niveau de toxicité acidique. Notre température de corps va toujours rester dans une norme. C'est tous des paramètres un peu basales, un peu...
qui sont régulés. Ça, c'est l'homéostasie, c'est l'espèce de régulation de tous ces paramètres-là du corps. Là.
Exact. Donc, imagine un reptile qui est un peu froid, ouais. va commencer à aller dans une place où il va avoir un peu plus chaud pour être directement dans le soleil.
Ouais.
Donc, ça, c'est un exemple de comment un reptile change son comportement pour réadapter sa physiologie interne. Donc, qu'est-ce qui arrive, par contre, avec des situations où on est stressé, c'est que on a besoin d'adapter à l'environnement. Puis ça, c'est un exemple de l'allostasie. Donc, l'allostasie, c'est comment notre corps va changer la physiologie interne pour s'adapter à l'environnement. Donc, la réponse de stress, c'est le meilleur exemple. Puis la personne qui a créé ça, c'est un neurobiologiste puis un épidémiologiste, Sterling et Ayer. Puis eux, ils ont regardé la pression artérielle, donc tout le fonctionnement mm-hmm. du système cardiovasculaire. Puis ils ont dit, écoute, ça n'existe pas vraiment un baseline basic homéostatique de blood pressure. Parce okay. que ça va toujours changer. Tu sais, notre pression va être plus haut pendant le sexe que pendant le sommeil.
Mm-hmm.
Quand on est stressé, ça va changer aussi. Ça va changer aussi avec l'âge. Ça va changer en fonction de statut socio-économique, de la race. Donc, eux, ils ont dit, écoute, ce concept homéostasie est un peu plate. Ça n'a pas de rapport. Donc, le concept d'allostasie a été introduit pour parler vraiment de toutes les systèmes biologiques, les mécanismes biologiques où on change notre fonctionnement interne pour s'adapter à l'environnement.
OK. Qui sont pas stables, qui vont beaucoup moduler dans une même journée, par exemple.
Exactement. Puis la réponse de stress, c'est le meilleur exemple. Il y a d'autres chercheurs qui s'est intéressé beaucoup de regarder glucose allostasis ou l'allostasie dans le concept de toxicomanie, comment tous les paramètres vont changer. Mais qu'est-ce qui est important dans tout ça, c'est que n'importe quel changement qu'on va voir dans une réponse de stress avec les hormones de stress va avoir un effet sur plein d'autres systèmes. Puis c'est avec le temps que les mécanismes allostasie comme une réponse de stress va user un peu le fonctionnement du cœur et du cerveau. Puis ça vieillit essentiellement tout le apparatus, le mécanisme de notre réponse de stress. Puis ça, avec le temps, devient quelque chose qu'on appelle la charge allostatique, donc allostatic load en anglais. Puis c'est essentiellement le wear and tear du stress chronique mm-hmm. en synergie avec des mauvais comportements de santé. Donc, quand on est plus stressé, on a la tendance de moins manger bien, boire plus, fumer plus, moins d'exercice.
Donc, ta méthode anti-stress, c'est de boire de l'alcool est pas recommandable tant que ça, pas recommandé.
Ben, écoute,
pour moi, ça marche.
Mais quelque chose de drôle, toute ma carrière est vraiment concentrée sur ce charge allostatique que je vais en parler un peu plus après. Puis beaucoup de monde s'intéresse à voir c'est quoi les comportements de santé qui peuvent être reliés à une charge allostatique. Puis semblerait-il que l'alcool n'est pas un facteur qui contribue à la charge allostatique, même que c'est l'inverse. Donc, le monde qui boit un peu plus a une charge allostatique plus bas. Mm-hmm. Je comprends pas exactement pourquoi. Je pense que l'alcool, il y a un aspect social.
Ouais.
Puis donc, je pense, quand on pense au stress et la résilience, on parle vraiment d'un mélange de facteurs de risque puis de facteurs de protection. Donc, un exemple, si j'étais quelqu'un vraiment stressé puis tu veux voir un de tes amis, c'est un peu difficile ce temps-ci, mais mm-hmm. si tu veux dire...
Dans le monde normal.
Imagine, tu dis, OK, Bobby, viens me voir au bar. Tu vas parler de ton stresseur, tu vas boire, mais tu as aussi ce soutien social.
Ouais.
Donc, tu as comme un facteur de risque, l'alcool, mélangé avec un facteur de protection. Donc, je pense... Pour comprendre le stress chronique à un niveau individuel, il faut vraiment prendre en compte ce mélange de facteurs de risque et facteurs de protection. Mmh.
Donc, quelqu'un qui boit plus a plus de chances d'avoir une vie sociale, plus épanouie, mettons.
Exact. Quelque chose aussi que j'ai réfléchi beaucoup, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui regarde ça, mais quand on parle d'une consommation d'alcool, il y a une grande différence en termes de statut socio-économique entre un shot, une bière, puis une bouteille de vin rouge à 50$.
Ouais.
Donc, je pense que ça aussi, c'est quelque chose à considérer.
Oui. Probablement que la personne avec la bouteille de vin rouge à 50$ a moins d'éléments stressants dans sa vie que la personne qui arrive à peine avec sa...
Si tu bois de la pape, si t'es plus stressé que si tu bois de la bière de microbrasserie, mettons.
Ouais.
C'est, quand on parle de stress chronique, peux-tu nous le définir?
Donc, ça, c'est une super bonne question. Donc, c'est pas facile à savoir c'est quoi...
Parce que tout le monde, mettons, juste pour lancer la question peut-être avec un meilleur angle, tout le monde est capable de savoir, OK, là, j'ai des papillons dans le ventre, en ce moment, je suis stressé. T'sais, ça, c'est du stress, on reconnaît ça. T'sais. Mais j'imagine que le stress chronique, qui est sur des plus longues périodes de temps, est souvent... plus difficile à saisir, plus difficile à comprendre, mettons?
Je pense qu'est-ce qui se passe avec vraiment un stress chronique, c'est qu'on va commencer à avoir vraiment un changement sur nos comportements de santé. Donc, si on commence à avoir un manque de sommeil, on commence à boire plus ou on commence à manger mal, ça, c'est une bonne indication à un niveau comportemental qu'il y a quelque chose qui se passe. Maintenant, quand ça se rend à un niveau vraiment physique, on commence à avoir des symptômes relié au stress, puis ça peut être n'importe quoi. Ça peut être des problèmes de peau, ça peut être un système immunitaire affaibli, ça peut être de la pression artérielle augmentée, et aussi tout qui est psychologique. Donc, si on commence à trouver qu'on n'est pas capable de fonctionner de la même manière qu'auparavant, ça, c'est une très bonne indication mm-hmm. qu'on est dans un stress chronique. Puis, quand on pense à la santé mentale, la majorité de conditions psychologiques, psychiatriques, un des critères essentiels pour être considéré comme une maladie, c'est avoir un fonctionnement diminué. Donc, mm-hmm. être incapable de fonctionner de mm-hmm. la façon qu'on le faisait auparavant.
Puis, tu sais, c'est encore une fois, pour reprendre l'idée que quand il y a un stress direct, immédiat, tu es capable de trouver la source rapidement. Mais quand tu commences à remarquer tous ces changements-là que tu as notés, que ce soit physique, que ce soit comportemental, que ce soit psychologique, pour réaliser que tu es en période de stress chronique, j'imagine, comment est-ce qu'on est capable de trouver la raison, en fait, la cause de ce stress-là?
Généralement, c'est jamais juste une cause. Ouais. À part d'une situation traumatique, c'est généralement une accumulation. Puis je pense que la COVID est tellement un exemple d'une accumulation de stresseurs, puis d'adaptation, puis de maladaptation. Tu sais, on a cette pandémie qui a commencé. Au début, c'était tellement stressant. Je me souviens, on n'était pas sûr au début qu'est-ce qui se passait. Je me souviens, je faisais le magasinage pour l'épicerie de ma mère, puis j'arrivais, puis je donnais les sacs, puis je suis comme « Bye, je te vois plus tard ». Maintenant, tu sais, on sait un peu plus sur comment ça fonctionne, mais ça a complètement changé notre mode de vie. Moi, personnellement, je trouve que j'ai trop de meetings par Zoom, j'ai trop d'emails, il y a trop de... On veut avoir ce contact social, mais ça fait en sorte qu'il y a comme une accumulation de stresseurs qui se passe. Puis je pense pour vraiment être dans une situation de savoir c'est quoi la source de notre stress, faut vraiment prendre un time out, puis de vraiment évaluer quelles sont les choses qui me permettent de bien réussir mes tâches, puis qu'est-ce qui les empêche. Bon, moi, personnellement, c'est l'email. J'ai besoin de trouver des meilleures stratégies pour gérer ça. C'est sûr que je peux être plus discipliné, mais ça reste quand même qu'on vit dans une époque où on est conditionné d'être un peu responsif. Mm-hmm. Donc, tu sais, Twitter, Facebook, Instagram, c'est tout bloup, 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 tu reçois un son. On est toujours un peu dans cette mode.
Ouais. Puis à moins que tu synchronises pas ton cellulaire avec tes boîtes à courriel, tu reçois tes courriels de travail sur ton cellulaire quand il est rendu 8 heures le soir, là, tu sais.
Mm-hmm. Ouais.
Fait que ça arrête jamais.
Ça arrête jamais. Mais tu sais, pour d'autres mondes, je pense particulièrement aux mondes qui n'ont pas les ressources économiques pendant la pandémie, c'est complètement des stresseurs différents.
Mm-hmm.
Puis ça reste toujours que si on a un manque de contrôle dans notre vie, qu'est-ce qu'on peut faire pour re-avoir sensation de contrôle? C'est pas évident pour tout le monde.
Puis non.
Je pense, malheureusement, la pandémie a vraiment démontré à quel point on a des inégalités, pas seulement au niveau économique, mais des inégalités de genre, de race et ethnicité.
Mm-hmm.
Donc, je peux pas vraiment répondre complètement parce que je pense que l'essentiel, c'est de vraiment faire l'introspection, de comprendre quelles sont les sources de nos stresseurs, mais aussi d'avoir un peu de compassion, particulièrement dans la situation actuelle. On va pas être parfait, on va faire plein d'erreurs, mm-hmm. on va boire trop, on va manger mal. D'être capable de se dire, OK, ça va. Mm-hmm. Je vais donner un exemple. La semaine passée, c'était le vendredi soir, j'étais chez ma mère. C'était la fin de la première semaine de travail. Je me suis dit, ah, du vin, ça va faire du bien. Puis, tu sais, je me sentais super coupable après. Mais, whatever, tu sais, mm-hmm. c'est pas la fin du monde.
Ouais. Vraiment pas, ouais.
Non, c'est ça. Puis, mais tu sais, ce que tu dis, Sonia parlait de carrément le mettre sur papier, là. Tu sais, quand, mettons, justement, t'es dans ton lit, puis t'es pas capable de dormir, t'as l'hamster qui tourne, tu sais, puis t'es en rumination de... C'est ça le mot, rumination?
Oui, absolument. Right? C'est comme les vaches avec...
ouais, c'est ça, tu sais, ouais. de tourner toujours les mêmes pensées dans la tête, mais de vraiment faire l'exercice de les mettre sur papier, tu sais, de les écrire, puis après ça, de les déconstruire avec les quatre... je sais pas comment t'appelles ça, là, les quatre facteurs de stress. Puis juste l'action de faire ça, j'imagine, va te donner un petit peu plus de sentiment de contrôle sur ta situation, puis va probablement t'aider aussi à déléguer cette partie-là de ton cerveau sur la feuille, puis après ça, de moins y penser un
Exactement.
Peu.
Exactement. Puis ça vient... il y a vraiment des stratégies d'adaptation, donc en anglais, on dit « coping strategies », qui sont plus positives que d'autres. Donc, l'évitement, « blaming self », donc dire « ah, c'est toute ma faute »,« wishful thinking », qui est tout « ah, la pandémie va magiquement...
» Ça va bien aller.
Ça va bien aller. C'est tout des... Oui, ça peut fonctionner comme stratégie d'adaptation, mais c'est pas fantastique.
C'est pas durable aussi, non, ça va te revenir
exactement. Ceux qui sont plus positifs, c'est de chercher du soutien social et qu'est-ce qu'on appelle en anglais « problem-focused coping ». Je ne sais pas comment on dit ça en français, mais l'adaptation...
Mais de régler le problème à la source, exact. En fait. S'il y a un élément qui te stresse, si ce qui stresse, je vais te donner l'exemple avec Sonia, de si c'est que tu n'as pas étudié ton examen, ben le fait d'étudier risque de te déstresser, I guess.
Oui, c'est une bonne... Exactement. Puis je pense n'importe quelle situation où, même si on ne peut pas changer le résultat directement, d'y penser, puis de penser à plusieurs stratégies, c'est l'essentiel. Moi, je suis un grand joueur d'échecs, puis je pense à... Il faut toujours penser à la variation, puis penser à la stratégie, puis comment tu positionnes ton jeu. Puis je pense que n'importe quel stresseur dans la vie, il faut être capable de vraiment mastiquer puis ruminer toutes les possibilités. Pour certaines personnes, je dirais le monde un peu plus dépressif et aussi le monde un peu plus anxieux, ça peut être très difficile de faire cet exercice de masturbation, ouais,
c'est
intellectuelle.
Ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mm-hmm.
Mais je pense, en général, c'est une très bonne façon de reprendre un peu le contrôle de la situation. Mm.
Tantôt, je t'ai coupé pour faire une joke là, quand tu parlais des facteurs de risque ou en tout cas des corrélations entre des personnes en stress chronique puis des comportements comme toxicomanie, alcool puis tout ça. Parce que j'imagine que vous le mesurez, vous êtes capable de mesurer le stress justement dans des prises de sang, dans la salive, tout ça. J'imagine que vous voyez justement une corrélation entre certains comportements, mais est-ce qu'à l'inverse, puis peut-être qu'il y en a d'autres, puis est-ce qu'à l'inverse, il y a certains types de comportements que tu dis, OK, mettons une personne sportive peut-être en moyenne développe moins de stress chronique, ou est-ce que le positif, est-ce que tu es capable de dire... certains traits positifs de comportement qui fait en sorte que tu vas peut-être moins développer un stress chronique?
C'est une super bonne question, puis ça revient un peu au point que je disais de le mélange entre facteurs de risque et un mélange de facteurs de protection. Mm-hmm. Donc l'exercice, et je pense qu'il y en a un entre vous qui est un athlète.
Les deux pas mal.
Plus lui, mais les deux un peu. Ouais.
D'être physiquement actif, c'est sûr que c'est bon pour la santé, mais ça peut aller à l'extrême où ça peut avoir un effet sur notre corps, puis user, puis stresser.
Ouais, à un point extrême, ouais.
Donc, je pense que n'importe quel comportement de santé, même le sommeil, si on dort trop, c'est comme même être aussi pire que pas dormir assez. Ouais. Tout est un peu un balance.
Mais j'imagine qu'il y a plus de monde qui souffre de faire pas assez de sport puis de pas assez dormir,
exact,
que de trop, là,
exact,
en général.
Exact.
Ouais, pour souffrir de faire trop de sport, il faut sûrement que tu en fasses pas mal.
T'en fasses beaucoup. Là.
Ouais. Ouais. Ouais, vraiment. Si je pense à les gymnastes très jeunes, souvent c'est relié, ouais, à des problèmes d'alimentation.
Ouais.
Mais ça, c'est vraiment un extrême. Ouais, je dirais, en général, c'est une super question parce que je pense qu'il y a certains sous-groupes qui vont avoir un mélange de facteurs de risque et de facteurs de protection. Donc, je vais donner un exemple. La communauté gay, homme gay, ouais, c'est une communauté qui a beaucoup plus de stigma, beaucoup plus de discrimination, mais c'est aussi une communauté qui s'entraîne un peu plus, qui généralement fait un peu plus attention à la diète, qui fait un peu plus aussi, il y a plus de problèmes d'alimentation. Donc, c'est un groupe qui est assez fit physiologiquement. Donc, moi, quand je les regarde dans mes études de stress, ils ont actuellement un fonctionnement physiologique plus sain que les hommes hétérosexuels. Donc, comme sous-groupe, même ils font face à un stigma, comme sous-groupe culturel, socio-culturel, pour n'importe quelle raison, ils ont un corps généralement un peu plus fit que les hétéros, ouais, qui fait en sorte que certains paramètres liés au stress ne vont pas être la même que ce qu'on voit dans d'autres groupes.
Ouais. Mais comme tu dis, c'est super intéressant. Excuse, Pierre, je te dirai après. Mais comme tu dis, c'est super intéressant parce que c'est des. Justement, tu sais, le fait qu'il y ait cette. C'est pas le fait qu'il y ait cette pression-là, mais en tout cas, le fait que ce groupe-là fasse plus d'exercice, fasse plus attention, c'est super positif, mais cause dans certains cas extrêmes, tu sais, c'est comme il y a du positif et du négatif. Mais
je vais donner un autre petit cours d'histoire. Pendant la crise de SIDA et de VIH, il y avait tout un mouvement chez les hommes gays, les hommes bisexuels, de vraiment s'entraîner pour avoir la musculation, pour montrer qu'ils n'avaient pas l'infection, qu'ils n'étaient pas infectés. Donc, à un niveau culturel, ça fait en sorte qu'il y a eu comme un « muscle queen culture »,
okay,
mais qui était pour contrebalancer vraiment une épidémie dans la communauté.
Puis combattre un préjugé, justement.
Exactement. Puis ça, c'est vraiment intéressant parce que ça revient encore à ce que je disais de la combinaison de facteurs de risque, la combinaison de facteurs de protection. Mm-hmm. C'est jamais juste un ou l'autre ou « Ah, voici, faut faire l'exercice une heure par jour. » Ouais. Ça va tout dépendre de les sources de stress dans notre environnement.
Mm-hmm. Puis, je t'entendais en entrevue l'autre fois, hier, en me préparant pour aujourd'hui, là, où est-ce que tu parlais des communautés LGBTQ+. Puis, juste pour rebondir sur ce qu'on vient de mentionner là, tu sais que la plupart des hommes homosexuels étaient plus fit que les hommes hétérosexuels. Puis j'imagine qu'à l'intérieur du groupe homme homosexuel, il y a plusieurs autres facteurs de stress. Mais tu disais dans l'entrevue que j'ai entendue que un des grands différenciateurs, c'était le coming out.
Exactement.
Une fois que le coming out, avant le coming out et après le coming out. Puis admettons qu'on se penche un petit peu là-dessus, peut-être qu'on parlera plus de ça un petit peu plus tard aujourd'hui, là, mais les hommes homosexuels, après le coming out versus hommes hétérosexuels, quelles semblent être les corrélations puis les différences entre ces groupes-là au niveau du stress puis des facteurs de stress?
Donc, chez la communauté LGBTQ+, le processus du coming out, c'est souvent très, très long.
Mm-hmm.
Donc, en général, n'importe qui a des fantasmes sexuels pour le même sexe, il va avoir un espace de 5 ans où la personne va y réfléchir même avant d'avoir eu l'acte. Donc, mm-hmm. il y a toute cette période de temps où la personne peut être en détresse, puis après, de
sortir du placard. Ça, c'est pas nécessairement de pas vouloir sortir du placard, c'est du questionnement
exact.
À l'interne. Là, tu sais.
Exactement. Moi, je suis un homme gay, puis j'ai su quand j'avais 10 ans que j'étais gay. Mon père était un peu hyper masculin, donc tu sais, je cachais ça. C'était de l'âge de 10 ans à 14 ans, c'était difficile. Tu sais, j'ai eu beaucoup de problèmes de santé mentale. Mais je pense que tout ce processus a fait en sorte que j'ai subi un stressor que la majorité du monde n'ont pas fait face. Mm-hmm. Donc, ça m'a aidé à développer un peu de résilience. Mon coming out n'était pas super facile, mais là aussi, ça a pris du temps. Donc, je pense à beaucoup de monde qui ont fait ce parcours. Ça fait en sorte qu'ils ont un stressor unique qui est spécifique à leur identité. Pour le monde transgenre et non-binaire, c'est mm-hmm. souvent deux fois un coming out. Donc, le coming out pour leur orientation sexuelle, puis des fois aussi...
Pour leur genre.
Exactement. Puis pour la communauté LGBTQ+, un des plus grands stresseurs, c'est un, d'accepter que tu es une minorité sexuelle ou de genre, et de faire le coming out. Donc, je pense qu'est-ce qui se passe avec le monde qui ont ce processus, ça aide à développer un peu de résilience. Puis je pense que c'est ça, en effet, que je suis en train de voir avec la recherche que j'ai fait pendant mon doctorat avec Sonia. Donc, je me souviens la journée où Sonia m'a accepté de prendre dans son labo, j'avais parlé avec une de ses collègues de comment je voulais faire une étude de stresser les gays pour voir quelle serait leur réactivité.
Ça, c'est un bon pitch de projet, là. J'aimerais rentrer dans votre labo pour stresser les gays.
c'était essentiellement ça. Puis Sonia n'a pas accepté au début. Elle a dit, écoute, mon petit gars, on va commencer ça tranquillement. Donc, c'était vieillissement, épuisement professionnel. Puis un jour, elle m'a dit, écoute, Rob, j'ai plein d'étudiants cet été. Je sais pas quoi on va faire. On va faire ton petite étude gay.
Mm.
Puis écoute, ça a ouvert toute une porte de recherche. Parce qu'à l'époque, tout ce qui était hormones de stress, biologie de stress dans le milieu de tout ce qui était LGBTQ+, c'était tout dans le contexte du VIH puis la SIDA.
Ouais.
Puis je voulais éviter ça. Ou l'autre aussi, c'était pour tout un domaine de recherche qui essaie de comprendre pourquoi le monde était gay ou pourquoi le monde était transgenre pendant les années 80. Puis ça aussi, ça m'intéressait un peu moins parce que ça... Qu'est-ce que ça fait pour la communauté de savoir ça mm-hmm. exactement?
Mm-hmm.
Parce que si on sait que c'est purement biologique ou c'est purement l'environnement, qu'est-ce que ça va faire pour nous? Donc, tout ça pour dire que je me suis intéressé à cette question, puis on a fait une étude où on a stressé la communauté LGB, puis on a trouvé que, en général, quand on stresse le monde dans un laboratoire, les hommes réagissent plus fort en termes de production de cortisol. Donc, tout le monde, si on est pour être stressé là et maintenant, si on prend un échantillon de salive, ça va prendre environ 20 minutes pour voir un pic en cortisol. Puis nous, qu'est-ce qu'on fait dans le laboratoire? C'est qu'on amène le monde, on les fait calmer, on prend des échantillons de salive avant le stresseur, puis après le stresseur. Puis nous, notre but, c'est de voir à quel point ils réagissent, puis à quel point ils sont capables de se calmer le pompon une fois que le stresseur n'est plus là. Donc, on parle de reactivity, puis recovery.
Mm-hmm.
Puis Je me suis intéressé de voir qu'est-ce que ça serait chez la communauté LGB. Malheureusement, on n'a pas inclus de participants transgenres, mais ça, c'est à venir.
Ça s'en vient, oui.
Puis qu'est-ce qu'on a trouvé, c'est que les hommes gays, bisexuels, c'était principalement des hommes gays, avaient un manque de réponse en termes de cortisol, comparativement aux hommes hétérosexuels.
Un manque de réponse?
Exact. C'était comme flatline. Puis ça, c'est souvent quelque chose qu'on voit dans la littérature sur le trauma puis l'épuisement professionnel, qu'il y a comme un manque de réponse parce que...
Quand le corps a été pas, ben, quand le corps a été trop habitué... Au stress, exact. En fait.
Qu'est-ce que je pense avec tout ça, c'est que si on était en une situation de stress chronique, éventuellement, le cerveau va dire, écoute, faut qu'on arrête cette réponse. Donc, il va y avoir un down-regulation de tout le fonctionnement du cortisol, mais ça va faire qu'un autre système va se contrebalancer. Donc, qu'est-ce que j'ai trouvé? C'est un exemple. Les hommes gays, dans mon échantillon, avaient un manque de réponse comparativement aux hommes hétéros, qui avaient la réponse qu'on voit tout le temps dans ces études. Mais quand on a fait une autre étude pour regarder le pouls puis la pression artérielle, les hommes gays bisexuels étaient plus élevés que les hommes hétéros. Donc, ils avaient des niveaux bas de cortisol, mais des niveaux élevés de pouls. Puis les hommes hétérosexuels, c'était le cortisol élevé, mais le pouls plus bas.
Donc, ça, mettons l'analyse de ça, puis corrige-moi si ma lecture est mauvaise, mais c'est que le cortisol puis la réaction au stress permettrait de calmer certains autres facteurs? Comment on l'analyse, mettons, cette différence-là, puis comment on l'explique?
Je pense que c'est plus que quand un système va commencer à diminuer son fonctionnement, un autre système va contrebalancer, qui n'est pas toujours une bonne chose. Donc, on parle souvent de discrimination puis maladie cardiovasculaire. Mais je vais aller plus loin parce que c'est juste un résultat avec cet échantillon. Mm-hmm. Pour les femmes, qu'est-ce qu'on a trouvé? C'était que les femmes lesbiennes et bisexuels, puis c'était principalement des femmes bisexuelles, eux, ils répondaient plus comme un homme hétérosexuel. Donc, eux, ils avaient un pic de cortisol 40 minutes après le stresseur, qui est un peu tard. Donc, on soupçonne que c'est peut-être un peu de rumination puis qui se passe. Donc, une fois que le stresseur est plus là, si t'es en train de ruminer, puis tu dis « Ah, shit, j'étais pas très bon pendant cette tâche, j'ai mal fait ça », ça, c'est un exemple de rumination qui va faire en sorte que la réponse de stress va continuer. Les femmes hétérosexuelles, il y avait un manque de réponse. Donc, si on comparait les femmes hétérosexuelles puis les hommes gays bisexuels, c'était la même genre de réponse, donc un flatline. Puis pour les femmes lesbiennes et bisexuelles, c'était plus comme une réponse d'hommes hétérosexuels. Qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a aussi regardé les hormones sexuelles, donc l'estrogène, progestérone et testostérone. Mm-hmm. Puis qu'est-ce qu'on a trouvé, c'est que les femmes lesbiennes et bisexuelles avaient des niveaux de testostérone plus élevés, puis ils avaient aussi la progestérone plus élevée. Puis ça, c'est vraiment intéressant parce que cette augmentation d'hormones sexuelles était reliée à un cortisol plus élevé. Puis ça, c'est quelque chose vraiment intéressant parce que pendant une période de temps, dans les années 80, beaucoup de monde s'intéressait à voir c'est quoi le profil biologique qui pourrait expliquer pourquoi quelqu'un est gay ou lesbienne. Puis c'était un peu débunké parce que c'était pas... Il y avait trop de variabilité. Des fois, c'était des niveaux trop élevés, trop bas. Mais en général, qu'est-ce qui a été trouvé pour un tiers des études? C'était pour les femmes lesbiennes et bisexuelles, il y avait des androgènes plus élevés. Donc, la testostérone était souvent plus élevée. Mais un de mes collègues, pendant mon postdoc à Columbia, c'est Heino Meyer-Balberg. Puis lui, a fait une revue pendant les années 80, puis il a dit, écoute, ce résultat de testostérone plus élevé chez les femmes minorités sexuelles, ça pourrait s'expliquer par plein de facteurs comme le stress. Mm-hmm. Donc, on sait que le stress de faire face à plus de stigma dans ta vie va augmenter tes niveaux de testostérone. Donc, c'est exactement ce qu'on a trouvé dans cette étude, c'est que les femmes lesbiennes et bisexuelles qui avaient plus de stress au quotidien avaient des niveaux de testostérone plus élevés, puis la progestérone plus élevée, qui faisaient en sorte qu'ils avaient une réponse de stress plus élevée quand on les stressait.
Mmh. Puis si on prend ce concept-là, puis qu'on dit que le faire face à du stigma, avoir plus de facteurs comme ceux-là, si on prend d'autres minorités comme les différentes ethnies qui sont minoritaires, est-ce que ça a été testé aussi?
Oui, il y a beaucoup de recherches qui s'intéressent à regarder la discrimination. Puis c'est assez semblable à ce qu'on commence à voir chez la communauté LGBTQ+, mais c'était plus axé sur le fonctionnement cardiovasculaire. Puis un plus grand risque de maladies cardiovasculaires chez les minorités de race et ethnicité, particulièrement la communauté afro-américaine qui ont malheureusement beaucoup plus de stigma, puis il y a beaucoup plus de recherches qui étaient faites chez eux.
Donc on mesure plus de stress puis de stress chronique chez ces groupes-là.
Oui. Puis okay. Qu'est-ce qui est vraiment fun, c'est que l'étude que j'ai faite avec Sonia, puis il y a encore plus de résultats qui est ressorti de cette étude. C'était une des premières études qui a vraiment regardé les hormones de stress en lien avec l'orientation sexuelle. Juste pour revenir au point du coming out, si on était pour regarder le résultat des hommes gays bisexuels qui avaient un manque de réponse de cortisol, du niveau de pression, le pouls plus élevé, on dirait peut-être c'est un profil maladaptif, mais quand on a regardé la psychologie avec des questionnaires, on avait des questionnaires de dépression, épuisement professionnel et anxiété, puis on a trouvé même que les hommes gays bisexuels étaient moins déprimés que les hommes hétéros, qui était vraiment un résultat, on s'attendait pas à ça.
Comment est-ce qu'on l'explique?
Mais je pense que c'est un biais de sélection. Donc, le monde qui a participé à mon étude, en sortant, c'est du monde qui ont venu à l'hôpital Louis-H. Lafontaine deux fois, 50$ comme rémunération. Ils ont saigné, ils ont pissé, ils ont craché pour la séance. On les a stressés, ils ont complété 30 questionnaires. Écoute, c'était vraiment... je les remercie encore. C'était au moins du monde qui était assez confortable avec eux-mêmes de se présenter puis de participer à la recherche. Puis quand on a fait une analyse de voir qui a fait complètement leur coming out à leur famille puis à leurs amis, qui était la majorité des hommes gays bisexuels, eux, ils avaient des niveaux de cortisol plus bas pendant toute la journée. Donc, on peut mesurer le cortisol dans un laboratoire où on stresse le monde. Mais on peut aussi le mesurer au quotidien avec des échantillons qu'on voit à la maison. Puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est que quand on se lève au matin, on a une réponse de stress normale. Ça s'appelle le cortisol awakening response. C'est pas vraiment un stressor, c'est juste notre système qui est activé. Puis ça montre encore pourquoi le stress est bon. Tu sais, faut avoir une augmentation de cortisol pour être capable d'être cognitivement là pour commencer notre journée, pour activer notre métabolisme. Puis qu'est-ce qu'on a trouvé, c'est que les LGB de notre échantillon qui avaient complètement sorti du placard avaient des niveaux de cortisol un peu plus bas dans le matin comparé à ceux qui n'ont pas complètement fait leur coming out. Puis quand on allait un niveau plus loin avec une prise de sang, on s'est intéressé à regarder tout un bilan de biomarqueurs. J'ai mentionné au début la charge allostatique. C'est vraiment mon dada. Toute ma recherche s'intéresse à cet index. Puis qu'est-ce que c'est essentiellement? C'est un index de fonctionnement physiologique. Donc, au lieu de juste regarder le cortisol, on s'intéresse à voir le cholestérol, le triglycéride, la pression artérielle, la glucose, l'insuline, le système immunitaire, nos facteurs de coagulation. Donc, on a eu un bilan de 20 biomarqueurs. C'était une étude assez chère. Puis qu'est-ce qu'on a créé, c'est avec cette charge allostatique, ça représente le nombre de biomarqueurs chez une personne qui sont un peu déréglés. Puis qu'est-ce qu'on a trouvé, c'est que les hommes gays bisexuels avaient une charge allostatique plus bas que les hommes hétérosexuels. Puis c'était vraiment pas un résultat qu'on s'attendait, mais ça s'expliquait que c'était vraiment un groupe, on pense, qui était résilient.
Donc, les individus qui sont venus étaient des individus qui, parmi ce groupe-là, étaient peut-être favorisés, là, tu sais, peut-être
avantagés plus leur situation.
Exactement.
Par rapport à la moyenne de ce groupe. Donc, tu penses que c'est peut-être pas nécessairement une vérité que de dire que, mettons, en général, les hommes gays seraient moins stressés.
Puis on a eu vraiment un tour de médias. Stephen Colbert a même pris, a dit, le spin, c'était comme « Gay men are less stressed out than straight men ». Je suis comme « Non, c'est pas ça le résultat. »
C'est pas si simple que ça.
Non, c'est parce que il y avait vraiment une analyse between groups qui était hétérosexuel comparé au LGB. Puis après, une analyse within groups qui était LGB sorti du placard ou non. Donc, c'est difficile à expliquer tout ça aux médias. Mais,
À Stephen Colbert. Stephen Colbert a pris
ça, puis c'était tellement drôle parce que c'était publié dans le journal Psychosomatic Medicine, qui est un nom un peu, ça fait un peu comme « Ouh, c'est tout dans ta tête ». Puis la journée même, la société du journal avait un vote pour changer leur nom parce qu'il trouvait peut-être qu'on devrait être biobehavioral ou biopsychosocial. Puis Stephen Colbert, il amène l'étude, puis il dit « This is a wonderful publication published in Psychosomatic Medicine, which is a wonderful publication where with the print version, an online version, and the version all in your head. » Puis il a continué à dire « Écoute, cette étude a été faite au Canada. » Donc, on doit attendre que cette étude se fait avec des vrais humains. Mais c'est exactement ça que j'ai fait pendant mon postdoc. Je me suis intéressé de voir est-ce que les résultats seraient semblables aux États-Unis. Puis, qu'est-ce que j'ai fait au Canada? C'était un petit échantillon de 87 personnes. C'était quand même une étude très chère, mais ça reste qu'on était limité avec le monde qu'on pourrait prendre. Donc, j'ai fait une collaboration avec des chercheurs à l'Université de California, Los Angeles, qui avaient accès à des données de 13 000 Américains. Puis on était capable de calculer la charge allostatique. Puis qu'est-ce qu'on a trouvé? C'était encore la même chose. Les hommes gays avaient une charge allostatique plus bas que les hommes hétérosexuels. Mais parce qu'on avait un plus large échantillon, on était capable d'avoir plusieurs groupes d'orientation sexuelle. Donc on avait hétérosexuels, bisexuels, homosexuels. Mais on avait un autre groupe qui est super intéressant, mostly heterosexuals. Donc ceux qui sont pas vraiment bisexuels, pas complètement hétéro parce qu'ils ont eu des expériences. Puis qu'est-ce qu'on a trouvé, c'est que chez les bisexuels, c'était les hommes bisexuels qui avaient une charge allostatique plus élevée que tous les autres groupes. Puis ça, c'est intéressant parce que être bisexuel, c'est d'être un groupe majoritaire d'un groupe minoritaire qui ne reçoit pas les mêmes ressources de soutien. Souvent, tu sais, les hommes gays vont souvent dire « Ah, c'est un tapette qu'il peut pas choisir. » C'est un peu... Malheureusement, il y a énormément de préjugés contre la communauté bisexuelle. Donc, ça pourrait s'expliquer à ce niveau-là. Mais l'autre explication, c'est que, comme j'ai dit auparavant, les hommes gays ont comme culture... Ils font un peu plus attention à leur diète, à leur alimentation. Puis tous les biomarqueurs qu'on regardait, c'était le cholestérol, l'index de masse corporelle, pression artérielle. Donc, ça pourrait s'expliquer. De l'autre côté, les femmes...
C'est fascinant à quel point tout est tellement multifactoriel que c'est dur de mettre le doigt sur exactement c'est quoi la cause de tout ça. Excuse-moi, je ne voulais pas te couper.
Non, il n'y avait pas de problème. Je pourrais juste continuer de parler. On n'a pas trouvé de différence chez les femmes. Dans mon étude avec Sonia, avec les Montréalais, ni avec l'étude avec les Américains.
Pas de différence chez les femmes.
En lien avec l'orientation sexuelle. Donc, oui, il y a la petite variation en termes de leur charge allostatique, mais on n'a pas trouvé de différence basée sur l'orientation sexuelle. Puis ça, c'est, je pense qu'on a besoin d'aller plus loin dans l'avenir pour comprendre plus d'autres facteurs de stigma à part. Donc, tout ça, c'est des études où on regarde des groupes. Mais chaque groupe a vraiment un contexte de facteurs psychosociaux puis de comportements qui sont assez uniques, qu'on n'est pas capable de vraiment regarder dans une grosse enquête un peu superficielle.
Mais donc, l'étude qui a été faite aux États-Unis, il y a un échantillon qui est assez gros puis assez varié pour qu'on soit assez certain des résultats, finalement.
Oui. Mais ça pose la question, qu'est-ce qui explique ça? Donc ça, c'est un peu le mélange entre la santé publique, qui souvent va avoir des grosses enquêtes, des gros échantillons, mais qui va manquer un peu le raffinement.
La précision.
Donc ça prend du monde en neurosciences comme moi, comme Sonia, qui complimente un peu les résultats avec un compréhension plus au niveau mécanisme de qu'est-ce qui se passe chez l'individu et aussi à un niveau biologique.
Mais quand on parle de, mettons, de dépression, d'anxiété, est-ce que les minorités sexuelles en vivent davantage ou on le remarque pas?
Donc, généralement, qu'est-ce qu'on voit dans la littérature de santé publique, la littérature psychologique, c'est qu'il y a plus de stigma chez la communauté LGBTQ+.
Donc, plus de ce type de troubles de santé mentale-là?
Exact. Okay. Exactement. Sur les questionnaires, plus de dépression, plus d'anxiété, plus de toxicomanie. Mais qu'est-ce qui est unique avec cette recherche qu'on fait, c'est que qu'est-ce qu'on voit au niveau physiologique, c'est quelque chose de différent. Puis ça, c'est intéressant parce qu'on peut être résilient à un niveau d'avoir un fonctionnement physiologique qui fonctionne bien, mais que notre santé mentale va pas super bien. Donc, je vais donner un exemple qui revient au racisme aux États-Unis. Il y a un concept très intéressant, John Henryism. Donc, John Henry, je sais pas si c'est quelqu'un qui était vraiment... si c'est un caractère fictionnel, mais c'était un homme noir qui travaillait sur les fers.
Chemin de fer.
Puis apparemment, l'histoire, c'est qu'il était en compétition contre une machine, puis il a battu la machine, puis une fois qu'il a battu la machine, il a crevé d'épuisement. Du John Henryism, c'est l'idée que certains individus de la communauté noire vont être capables de réussir bien à l'école ou bien réussir économiquement avec leurs travaux, mais ça va venir avec un prix. Puis il y a un chercheur par le nom de Brody qui s'est vraiment intéressé de voir un mélange de succès académique, symptomatologie psychiatrique et charge allostatique. Puis qu'est-ce qu'il a trouvé chez des adolescents noirs dans des quartiers un peu défavorisés? C'est que ceux qui avaient moins de symptômes externalisés, donc moins de délinquance, moins de colère, qui réussissaient bien à l'école, avaient une charge allostatique plus élevée.
Mm-hmm.
Donc, c'est un exemple de comment le... Resilience can sometimes be skin.
Mm-hmm.
Ça dépend vraiment du contexte. Comment il a dit ça dans l'article? Resilience is resilience skin deep. Ça, c'était la question qu'il a demandé. Puis on pourrait imaginer comment ça se manifeste chez d'autres communautés minoritaires, mais aussi le concept d'intersectionnalité est très important.
Ouais.
Donc, être une femme noire, lesbienne, c'est un mélange d'identité.
Trois stigmas. Un à côté de l'autre. Là.
Exactement. Puis on en parle beaucoup d'intersectionnalité. C'est un concept qui est venu un peu de contre-courant féministe où une femme noire trouvait que à l'époque, le féminisme était très blanc.
Mm-hmm.
Puis ça prenait pas en compte le contexte de race et d'ethnicité.
Mm-hmm.
C'est vraiment le mélange d'identité. Puis je vais juste retourner à mon résultat de sortir du placard. Puis au moins dans un échantillon de Montréalais, on trouve que sortir du placard était relié à des niveaux de cortisol plus bas et aussi une santé mentale plus forte. Donc moins d'anxiété, moins de dépression et moins d'épuisement professionnel. Il y a un autre groupe qui a fait une étude avant moi aux États-Unis et au Arizona, qui est quand même un état un peu redneck.
Mm-hmm.
Puis ils ont trouvé que les hommes qui avaient sorti du placard au travail avaient plus de problèmes de santé mentale et des niveaux de cortisol plus élevés.
Mmh.
Donc voilà, même groupe de personnes, mais
géographiquement,
sont dans un autre endroit.
Californie versus Arizona, finalement.
Exact. D'autres personnes ont regardé mon résultat de sortir du placard est bon pour la santé, puis ont dit « ouais, mais peut-être pour du monde qui ont un statut socio-économique plus fort ».
Mm-hmm.
Puis en effet, la majorité de mes participants étaient du monde universitaire, donc déjà un niveau c'est un peu plus élevé que la norme. Donc tout ça se mélange d'être une minorité sexuelle, une minorité de race et ethnicité, mélangée aussi avec statut socio-économique où t'habites. On s'entend que ma recherche pourrait pas se faire facilement en Arabie Saoudite.
Mm-hmm. Ouais. Mais donc la grande ligne qu'on peut tirer, c'est que finalement c'est pas nécessairement l'orientation sexuelle en soi qui va modifier un peu la réponse de stress, mais plutôt stigma égale stress.
Oui, c'est ça, exact. C'est ça le point clé, on dirait. Là.
Connaissez-vous le Stonewall Riots?
Non.
Donc, Stonewall Riots, je crois que c'était en 1969. Stonewall, c'était un bar. C'est toujours un bar, je pense, j'espère qu'ils vont rester ouverts à New York. Puis c'était un bar qui se faisait vraiment raider par la police. Puis un soir, ils avaient un genre de vigil, pas vigil, mais un genre de commémoration pour, c'est quoi son nom? La mère de Liza Minnelli.
Je ne peux pas t'aider.
J'ai
oublié complètement son nom. C'est l'actrice qui était dans
Liza Minnelli, ouais, je connais. Google-moi ça, Monica.
Oui, la mère de Liza Minnelli. Écoute.
Liza Minnelli.
Mother.
J'ai complètement oublié son nom. En tout cas, elle était morte, puis elle était vraiment.
Judy Garland,
merci.
Ah oui. Qui jouait, c'est elle qui jouait dans Wizard of Oz, non?
Oui, Wizard of Oz, pas Alice in Wonderland, je suis toute mêlée. Donc, la communauté était rassemblée pour vraiment... ils étaient très tristes parce que c'était vraiment un idole pour la communauté gay. Puis la police a rentré, puis ils ont dit on fait un raid. Puis ça a commencé un gros riot qui a vraiment poussé les droits civils aux États-Unis. Donc on parle souvent de Stonewall, post-Stonewall. Puis chaque ville en Amérique du Nord a eu leur propre Stonewall. Donc Montréal, on avait eu un, Toronto, San Francisco... Donc, pendant mon postdoctorat, quand j'étais à New York, j'ai fait des entrevues avec du monde qui était à Stonewall. Donc, on avait un échantillon de 60 lesbiennes et d'hommes gays qui étaient un mélange de personnes blanches et blancs, noirs et hispaniques. Puis, qu'est-ce qu'on a trouvé qui est vraiment intéressant? J'ai besoin de le publier. Donc, je dis que c'est un résultat qui a besoin d'être peer-reviewed, mais ça reste quand même que le résultat est là. On a trouvé sur un questionnaire de discrimination le plus d'identité que la personne rapportait d'être stigmatisée, donc leur âge, leur race ou ethnicité, leur orientation sexuelle, leur identité de genre, le plus d'identité qui disait qu'ils se sentaient être affectés, leur niveau de cortisol était plus élevé. Donc ça répond exactement à votre question que c'est d'avoir une identité qui est stigmatisée qui va faire en sorte qu'on va avoir une augmentation de cortisol.
C'est fascinant de mettre le doigt sur ça, on dirait, puis dans la compréhension du truc, de dire que dans une société, juste par la culture puis la façon avec laquelle on voit les minorités, que ce soit sexuelles ou de race, ou même les minorités stigmatisées d'âge, que ça ait un impact réel sur les facteurs de stress, mais plus largement ta santé, plus largement les troubles de santé mentale, puis que c'est calculable, puis qu'on le voit, puis qu'au final, tu sais, dans toute l'idée d'accepter les minorités, quelles qu'elles soient, c'est un facteur ultra important que de dire c'est aussi un aspect de santé de société. T'sais, c'est un aspect de
santé publique.
De santé publique là, t'sais.
Exactement. Puis c'est
pas juste social, en fait. C'est pas juste l'aspect sociologique de dire acceptons les gens comme ils sont. C'est aussi un aspect de santé publique.
Exactement.
C'est fou.
C'est exactement la façon que j'ai fini mon premier article avec Sonia. J'ai dit coming out of the closet, faut se sentir bien pour le faire, premièrement. Donc, si on habite dans un environnement où on se sent pas à l'aise de le faire, on va pas le faire. Donc, j'ai dit, this is no longer a matter of popular debate, but a matter of public health. Mm-hmm. Puis, en effet, c'est exactement qu'est-ce que je pense. Puis, je vais donner un autre exemple. C'est une recherche avec un de mes collaborateurs, Zachary Dubois. Lui, il se dit Dubois. Parce que c'est aux États-Unis, mais c'est vraiment Dubois.
Dubois. Désolé, mais c'est Dubois ton nom.
Je dis tout le temps, écoute, Dubois, même avec D-U, big capital, c'est clairement
c'est
un nom
Dubois.
Français.
Ouais, tu t'appelles Dubois. Tu viens du Québec. Là. T'étais un bûcheur, puis tes ancêtres étaient dans le bois. Là. C'est sûr.
Donc, Zach a fait une étude vraiment intéressante pendant son doc. C'est un anthropologue biologique. Donc, il s'intéressait à voir chez les hommes transgenres, donc femmes natales qui transitionnaient pour être hommes. Puis, il s'intéressait à voir leur expérience de transition avec des entrevues qualitatives. Et aussi avec l'échantillonnage de biomarqueurs. Donc, lui, il a regardé le cortisol, il a regardé aussi le fonctionnement cardiovasculaire. Puis, qu'est-ce qu'on a trouvé dans une de ces analyses? C'était que les hommes transgenres qui rapportaient plus de stress en lien avec leur transition, plus de stress en lien avec leur coming out, puis plus de stress en lien avec les toilettes publiques, avaient des niveaux de cortisol plus élevés que ceux qui avaient moins de stress. Puis c'était tout fait dans des états assez libéraux, donc Vermont, Rhode Island, Massachusetts. Puis c'est vraiment, ça montre à quel point beaucoup de facteurs qu'on est en train d'avoir des débats politiques, mais non, tu sais, ça a un effet direct sur le cortisol de la personne. Puis on a un autre, Zachary, puis un autre collègue, Jay Puckett, à l'Université de Michigan. Ils ont fait toute une enquête qui continue actuellement aux États-Unis de l'État de Oregon, l'État de Michigan, l'État de Tennessee, puis je pense qu'il y a un autre aussi... je me souviens pas c'est quoi, mais ils s'intéressent à voir la communauté transgenre et non-binaire avant l'élection, donc de voir tous les changements dans leur santé en lien avec Trump. D'ailleurs, qui va plus être le président.
C'est aujourd'hui, je pense.
Que... Ouais, le Cheeto in Chief. Je suis tellement content. J'ai hâte de voir. Je veux essayer de pas boire de champagne aujourd'hui.
As-tu été aux États-Unis pendant qu'il était président?
Ouais.
Ah ouais. Hein?
Écoute, c'était tellement la soirée où il était élu. Écoute, c'était tellement un traumatisme. La ville de New York, la journée après, c'était une journée.
C'était un deuil, là.
Hey, écoute, ouais. Comme je me sens émotif y penser. écoute, c'était tellement c'était traumatique de voir comment la ville de New York, même une ville libérale, ouais. était affectée par cette élection. Puis, au début, on s'est dit, il va pas être il va pas rien faire pour la communauté LGBT, mais écoute, Mike Pence, c'est un zélite, puis ouais. il a vraiment fait du dommage pour ouais. la communauté LGBT, particulièrement la communauté transgenre et non-binaire.
Mais lui, Mike Pence, il était pour la thérapie de conversion, là.
Ouais. Moi, je suis pas mal certain que lui en avait fait auparavant.
Il en avait fait une. Écoute, lui, là, ça fait 70 ans qu'il est dans le placard, puis que ses hormones de stress sont
c'est
dans
ça
le
tapis, là.
Juste pour dire. L'homophobie, il y a de la recherche qui a montré à quel point l'homophobie est souvent reliée à l'homophobie internalisée. Il y a même une étude...
L'homophobie est reliée à l'homosexualité refoulée.
Exact. Donc, il y a une étude même qui a regardé cette question. Ils ont mis genre un élastique métallique sur les pénis de participants. Puis c'était des participants.
Pourquoi tu ris? Ils ont mis un cock ring, là, en fait.
Ouais, c'est ça. C'est un cock ring techno.
Un cock ring qui est capable de calculer la tension.
Cool, cool, cool.
Puis ils ont pris du monde hétérosexuel, du monde gay, puis du monde qui était vraiment comme homophobique.
Okay.
Puis ils ont trouvé, c'est pas vraiment surprenant, que les hommes homophobiques qui étaient exposés à du porn gay, ils avaient des petites érections qui se passaient. Donc, c'est pas tout le temps le cas. Je pense qu'il y a des raisons socioculturelles, tu sais, les sociétés un peu macho. Mm-hmm. N'importe quelle société qui traite les femmes comme deuxième citoyen, c'est ouais. les mêmes sociétés qui traitent la communauté LGBT mal. Donc, tout ça pour dire que Mike Pence, je pense ouais. que he would have had a little...
Ah, c'est beau, mais tout ça pour dire, tantôt, tu disais l'élection, son élection, finalement, a vraiment... T'aurais pu mesurer là, la réponse de stress là, chez
la ville,
là,
oh,
vraiment. Là.
Particulièrement la communauté trans, puis c'est pour ça que Zachary puis Jay sont intéressés de regarder la communauté avec la charge adoptatique, avec le cortisol, mais aussi avec des entrevues qualitatives, avec des questionnaires. Puis maintenant, avec l'élection de Biden, qui bientôt mm-hmm. Va être inaugurated,
ouais.
On va être capable, avec le temps, de voir s'il y a une diminution de stress chez la communauté. Puis ça, c'est vraiment important parce que quand on parle de stigma, on peut parler de stigma internalisé, donc à quel point je me sens... Donc, un coming out, c'est un stigma un peu internalisé parce que le processus du coming out, c'est très interne. Mm-hmm. Puis après, c'est vraiment plus à un niveau plus macroscopique que ça, ton environnement, ta famille, tes amis, tes collègues. Mais à un niveau plus large que ça, c'est le stigma structurel. Donc, c'est quoi les lois en place qui te protègent comme minorité? C'est quoi les lois qui sont enlevées? Qu'est-ce que Mike Pence avait fait d'une manière très, très covertée? Il était très efficace, Mike Pence, à faire ce dommage-là. Donc, le stigma structurel peut se mesurer en regardant à un certain moment dans le temps, par État aux États-Unis,
ouais.
c'est quoi les lois qui te protègent? Puis un de mes mentors à Columbia, c'est un chercheur par le nom de Mark Hatzenbuehler, qui est vraiment la personne... il était à Columbia, mais maintenant, c'est à Harvard, donc ça donne une idée de le type. Lui, il est capable, avec plusieurs indices de lois, donc 10 lois différentes, de voir c'est quoi le stigma structurel d'un État à un certain moment. Puis qu'est-ce qu'il trouve, c'est que si tu es une minorité sexuelle dans un État avec plus de stigma structurel, qui est souvent les États plus rouges, tu as une santé mentale plus faible, puis aussi un risque de mortalité plus élevé.
Mm.
Puis qu'est-ce qui est super intéressant, c'est que ça change. Donc, lui, il s'intéressait de voir des États qui ont mis en place le mariage gay, puis ils ont trouvé qu'il y a eu une diminution de stress et de problèmes de santé mentale chez les États où il y avait un
changement.
Exactement. Donc ça, c'est quelque chose que je m'intéresse à voir avec Mark, de regarder... le stigma structurel aux États-Unis entre 2001 puis 2014. Puis regarder la charge allostatique. Puis qu'est-ce qu'on soupçonne, c'est que ceux qui habitent dans des États avec plus de stigma structurel vont avoir une charge allostatique plus élevée. Puis ça, c'est je vois pas ça comme dire, ah, tu sais, c'est plus important, la les biomarqueurs est plus important. C'est la recherche vraiment complémentaire à tout qui se fait en santé publique, tout qui se fait au niveau psychologique.
Est-ce que tu parles de facteurs de stigma macro, là, que je ne me rappelle plus le terme que tu utilisais, là, mettons.
Le stigma structurel.
Ouais, le stigma structurel. Est-ce qu'il y a eu des études qui ont été faites sur les communautés autochtones dans le monde?
C'est une très bonne question.
Parce que au niveau structurel, s'il y a bien des gens qui sont stigmatisés, c'est les communautés autochtones.
Absolument. J'ai un collègue en Australie, Zoltan Sarnier, qui était un étudiant de Bruce McEwen, le grand-père du stress. Il s'intéresse à voir chez les communautés autochtones australiennes, la charge allostatique chez eux en lien avec la discrimination. Mais de mes connaissances, je connais pas du monde qui ont vraiment regardé à un niveau
structurel. Ça serait vraiment intéressant, mettons, de comparer une société comme la Nouvelle-Zélande où est-ce que les Maoris sont beaucoup mieux intégrés dans la société.
Beaucoup plus épanouis versus ici,
où est-ce qu'il y a des réserves, puis c'est structurellement vraiment discriminant envers eux. Là. Ça serait super intéressant.
Je sais, pas chez les communautés autochtones, mais il y a de la recherche qui s'intéresse à regarder les inégalités de genre au même niveau. Donc, on parle de genre institutionnel, donc les lois qui sont en place qui ne permettent pas. Donc, les droits de reproduction, c'est un exemple excellent pour les femmes. Il y a beaucoup de variations aux États-Unis. Puis, il y a quelqu'un qui s'est intéressé de voir institutionalized gender à un niveau de c'est quoi la représentation de femmes politiquement dans un espace. C'est quoi les droits en place qui protègent ou non les droits de reproduction? Puis qu'est-ce qu'ils ont trouvé? C'est que les États qui avaient moins de gender, institutionalized gender, donc moins de stigma structurel, avaient une santé mentale meilleure. Donc, si tu étais dans un État qui avait plus de institutionalized gender, donc moins de lois qui te protégeaient, tu avais une santé mentale plus pauvre.
Aux États-Unis, tu sais, c'est assez facile, justement, comme tu dis, d'un État à l'autre, voir un État qui va être contre un mariage gay, un autre non. C'est assez facile de le voir, ce stigma structurel-là. Est-ce qu'au Québec, il y en a encore un stigma structurel? Puis si oui, quel est-il maintenant?
Je retourne à François Legault qui disait qu'il n'y a pas de racisme au Québec. C'est sûr qu'il y en a encore.
On peut le calculer dans la racine des cheveux des gens, là, si tu veux. Oui.
Ouais, je pense qu'il en reste toujours. Puis même avec
il a dit que pour être fait, il a dit qu'il y a du racisme, mais pas le racisme systémique.
Oui.
Qui est une,
mini-nuance. Ouais.
Mais c'est un super bon point. Puis ça revient encore à ce que je parle de stigma structurel, parce que quand on parle de
le système, c'est la structure.
C'est vraiment la structure. Puis oui, je pense, pour tout qui est LGBT, je pense qu'on est quand même. Les choses vont assez bien. Il y a quand même un progrès qui s'avance, mais ça reste quand même qu'il y a encore du travail à faire. Je pense, même chose pour le racisme, même chose pour les communautés autochtones. Il y a encore beaucoup de travail à faire dans n'importe quelle société. Puis je pense qu'on a un peu la tendance au Canada de dire, ah, tu sais, les Américains, on se sent un peu comme... on est les voisins d'un MATLAB en bas de nous.
Les voisins woke, là.
Puis, tu sais, on a quand même nos problèmes. Puis même de regarder une carte géographique du Canada avec qui a voté en faveur du mariage gay.
Est-ce qu'il y a eu des études qui ont été faites en Alberta sur la stigmatisation culturelle? Structurelle, excuse-moi.
Bonne question.
Parce que probablement que les résultats sont pas les mêmes qu'au Québec ou...
Exactement.
D'ailleurs, au Canada.
Là aussi, ça dépend. T'sais, il va y avoir certaines parties de Calgary qui vont être un peu plus progressives. T'sais, on parle de Texas. Il y a quand même des villes assez progressives à Texas.
Ah, donc, c'est bien,
même où on est dans un État est très différent. Puis où on est rural versus urbain est très important aussi.
On dirait que c'est comme une façon de calculer le racisme ou de calculer
l'homophobie
ou de calculer les, tu sais, mettons, d'être capable de calculer ça puis de les comparer à des endroits dans le monde, on dirait que c'est comme être capable de calculer un niveau de un niveau réel, genre tangible, de c'est quoi l'homophobie.
Parce que, tu sais, c'est les discussions qui sont dans l'air du temps. On en parle souvent ici, tu sais, puis c'est très... T'sais, c'est très sociologique comme question, mais en même temps, là, toi, t'arrives de background scientifique, où est-ce que c'est mesurable, puis là, on arrive un peu aux mêmes conclusions. Finalement, c'est vraiment fascinant de voir. Puis justement, tu sais, comme l'intersectionnalité, par exemple, c'est quelque chose qu'on parle, mais là, de vraiment le comprendre, quand t'as tel et tel et tel stigma mis ensemble, ça augmente ton niveau de stress, puis de stress chronique, c'est vraiment super fascinant.
J'ai un exemple d'une étude avec une de mes collaborateurs à New York University. Son nom, c'est Stephanie Cook. Puis elle s'intéresse beaucoup à le mélange d'être une minorité sexuelle homme et être noir versus blanc. Mm-hmm. Puis on a fait une analyse où on a regardé le cortisol au quotidien. Donc, diurnal cortisol, c'est le nom. Donc, on prend un échantillon au réveil, 30 minutes après, puis avant d'aller au lit. Qu'est-ce qu'on a trouvé, c'est que chez les hommes qui ont sexe avec des hommes qui étaient noirs, ils avaient un manque de cortisol. Ils avaient un profil de cortisol un peu aplati. Donc, okay. Il y avait moins de variations pendant la journée, qui faisait en sorte que avant d'aller au lit, leur niveau de cortisol était plus élevé que les hommes blancs. Puis ça, c'est quelque chose qui a été montré dans la littérature sur la discrimination, que souvent, le cortisol, avant d'aller au lit, c'est souvent un peu plus sensible à la discrimination. Puis c'est intéressant parce que ça, c'est un exemple d'intersectionnalité, qu'on a un mélange de race et ethnicité et d'orientation sexuelle. Mm-hmm. Mais c'est tous des hommes qui ont sexe avec des hommes. Mm-hmm. C'est le terme qui est utilisé plus en recherche comportementale. Men who have sex with men au lieu de...
Homosexuel.
Ouais.
OK.
Puis ça, c'est un exemple de comment on peut faire de la recherche intersectionnelle. Mais ça prend des grosses échantillons parce que l'idéal, ça aurait été d'avoir un groupe hétérosexuel, d'avoir des femmes. C'est bien d'avoir ce genre de mélange. Puis l'intersectionnalité reste quand même très difficile à mesurer à un niveau santé publique avec des données quantitatives. Tu sais, le concept d'intersectionnalité, on en parle beaucoup dans recherche qualitative puis beaucoup en recherche sociologique. De le mesurer, c'est souvent difficile, mais je pense qu'on faut le faire. Puis une façon, c'est vraiment d'indexer le nombre d'identités minoritaires qu'une personne a.
Mm-hmm. La semaine dernière, on a reçu le Rémi Quirion, qui est le scientifique en chef du Québec. Puis il nous
ça fait rire à chaque fois qu'on donne son titre. Ouais, c'est le scientifique chef, chef. C'est de tous les scientifiques.
Mais lui parlait que de plus en plus en recherche, puis lui favorisait ça, que différents départements se travaillent ensemble, travaillent conjointement. Oui. Donc, toi,
sciences naturelles, sciences humaines, c'est sociologie avec sciences, neurosciences.
Sa vision, donc Rémi Quirion, c'est drôle, il était le directeur scientifique de l'hôpital Douglas quand Sonia Lupien était là. Puis je me souviens une fois, fallait qu'il signe un document pour une demande de subvention, puis j'y rentre dans son bureau. Écoute, j'étais blindé par toutes les trophées. Il y avait tout était comme métallique, c'était
tout
super.
Tout bien shiny. Oh, ouais. Que ça te brise.
Chaque matin, mais...
Beaucoup de monde le sait pas, mais Rémi Quirion, c'est un des neuroscientifiques le plus cité au monde sur sa recherche. Il a arrêté plus de sa recherche pour...
Devenir son nouveau poste.
Mais écoute, tout ce qu'il fait actuellement avec les FRQ, c'est vraiment de favoriser des subventions qui mélangent des disciplines différentes. Donc, il y a des mécanismes qui s'appellent les demandes audace.
Oui, il nous parlait de ça.
Ouais.
J'ai appliqué, puis il n'a pas donné l'argent malheureusement.
Rémi, je vais l'appeler.
C'était quoi le projet?
C'était un projet avec les microbiologistes de voir le microbiome intestinal chez la communauté transgenre en transition. Parce qu'on sait que le microbiome intestinal, c'est toute la diversité.
La flore intestinale.
Diversité de microbiome,
microbes.
Microbes dans notre estomac. Puis c'est largement affecté par notre stress. C'est aussi affecté par les hormones sexuelles. Donc, on s'est dit que ça serait vraiment intéressant de voir chez la communauté transgenre parce que il y a une diminution de stress avec la transition, mais il y a un changement d'hormones sexuelles. Un des symptômes souvent chez la communauté transgenre masculin, c'est des problèmes digestifs puis des problèmes de douleur puis des problèmes immunitaires. Donc, on s'est dit que ça pourrait être à un niveau super important pour la communauté d'être capable de faire cette recherche, mais aussi à un niveau fondamental, ça permet de voir comment les hormones sexuelles, puis le microbiome, puis le cortisol
interagissent.
Mais malheureusement, on n'a pas l'a eu, mais on a eu un petit fonds de l'Université de Montréal, puis c'est quelque chose qu'on va explorer.
C'est hot.
La question que je voulais te poser, c'est est-ce que toi, mettons, dans ta recherche en neurosciences, t'es amené à travailler avec, mettons, justement des gens issus des sciences humaines ou tout ça. Est-ce qu'il y a ce dialogue-là? Ou?
Oui, puis moi, personnellement, la recherche transdisciplinaire, c'est vraiment l'approche que je prends. Donc, pour moi, juste pour la question de stress, on peut regarder le stress d'une perspective environnementale, on peut regarder ça d'une perspective psychologique avec des questionnaires, style sur une échelle de 1 à 5, je suis stressé, puis l'autre, c'est vraiment biologique. Puis je pense d'être capable de mélanger tout ça ensemble, ça donne une perspective plus holistique, sans être un peu quétaine, tu sais, wou-wou. C'est vraiment, ça nous donne une perspective plus personnalisée de l'individu, puis cette approche me permet vraiment de faire la recherche avec du monde en travail social. Donc, une de mes collègues, c'est Annie Poulin-Sans-Façon, en travail social à l'Université de Montréal, qui s'intéresse chez les jeunes trans et leurs familles. Puis, quand je l'ai rencontrée, Annie, la première fois, j'arrive avec tout ce cortisol, puis la salive, puis le microbiome, puis tout ça, puis... T'sais, on réalise qu'on est en train de répondre les mêmes questions. T'sais, le but, finalement, c'est de comprendre comment le stigma affecte notre santé.
Vous parlez pas le même langage, mais vous parlez de traiter du même sujet. T'sais.
Exactement. Mm-hmm. Exactement. Donc, je pense d'avoir cette perspective transdisciplinaire, ça permet de ouvrir des portes. Puis, tu sais, je suis pas un expert dans tout ce que je fais, mais je suis capable de au moins savoir comment dire bonjour, Konnichiwa, type dans certains langages de mes collègues. Mm-hmm. Puis de plus en plus, on va voir ce genre de recherche favorisé.
C'est vraiment intéressant parce que tu sais, j'ai l'impression qu'avec Sonia, on a plus vraiment traité de comment le stress fonctionne dans un être humain, dans un individu, comment ça se manifeste, comment qu'on peut apprendre à le dealer. Puis là, on étend la conversation sur OK, mais après ça, quels sont les groupes dans la société qui sont le plus affectés par ça, puis ça, puis là, ça permet d'avoir vraiment une perspective globale de ça, puis après ça, justement, si on se rend compte certains groupes plus touchés, ben là, après ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça, tu sais, parce que est-ce que c'est structurel, ben là, au niveau des lois, qu'est-ce qu'il faut changer, ça devient vraiment, justement, tu sais, super, super intéressant là-dessus. Là.
Moi, j'ai une question par rapport à la charge...
Allostatique.
OK. Puis cette charge-là qui est calculable, quels effets, quels en sont les effets sur le long terme?
Donc, la charge allostatique a été créée pour... Ça répond un peu à ta question sur le vieillissement.
Oui, ça semblait être deux affaires qui allaient ensemble.
La charge allostatique, le facteur qui prédit une charge allostatique le plus fort, c'est l'âge. Donc, le plus qu'on vieillit, le plus que notre charge allostatique va augmenter. Puis le concept a été créé vraiment pour comprendre, d'être capable d'avoir une meilleure capacité de prédire des maladies reliées au stress chez les populations âgées. Donc, il y avait une étude, MacArthur Studies of Successful Aging. C'était des petits vieux qui allaient assez bien, leur santé allait assez bien. Mais ils s'intéressaient à voir, est-ce qu'on est capable de prédire qui va développer des problèmes cognitifs, qui va mourir? Puis ils ont créé la charge allostatique.
Est-ce qu'on est capable de calculer qui va mourir?
c'est ça qu'ils ont fait.
Ouais, rapport minoritaire, puis, style.
Ils ont pris 10 biomarqueurs différents, donc cholestérol, triglycérides, glucose, cortisol, adrénaline. Puis Sonia était dans la salle quand ils étaient en train de faire ces 10
Sonia, elle a vécu 7 vies. Là.
Ouais, vraiment.
Elle a 150 ans. Là. La charge allostatique la plus basse de l'histoire.
Bon. Non, c'est quand même quelqu'un, comme elle a dit sur l'émission, c'est quand même quelqu'un qui fait face au stress aussi, comme n'importe qui. Mais c'est juste que c'est pas, le stress n'est pas vu comme menace insurmontable pour son lien. Donc, il s'intéressait à utiliser cet index pour prédire les trucs. Puis, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? C'est que même dans un échantillon de 1000 personnes qui allaient assez bien en santé, la charge allostatique qui regardait pas juste des biomarqueurs qui étaient cliniquement significatifs. Donc ça, c'est qu'est-ce qu'on a comme avantage avec un index de charge allostatique, c'est qu'on est en train de regarder plusieurs biomarqueurs Donc, c'est pas juste cortisol ou juste cholestérol. Mais aussi, on est en train de regarder des cut-offs un peu sous-cliniques. Donc, je vais donner un exemple. Si tu vas voir ton docteur puis ton cholestérol est 5.2, il va mettre un cercle puis il va dire, écoute, ton cholestérol est élevé. Mais qu'est-ce qui arrive à quelqu'un avec 4.7? Ça, c'est pas cliniquement significatif, mais ça s'approche. Donc, l'index de charge allostatique nous permet de prendre en compte des systèmes qui sont un peu... ça fonctionne pas super bien pour être capable de prédire les maladies. Puis, qu'est-ce qu'ils ont trouvé avec cet index qui représente le nombre de biomarqueurs qui sont déréglés pour un individu? Une charge allostatique plus élevée était reliée à plus de maladies cardiovasculaires, plus de déclin en cognition, plus de problèmes en déclin en
physique
et all-cause mortality, donc n'importe quelle cause de mortalité. Puis on fait ça baseline, 3 ans, 7 ans, puis 12 ans. Puis le résultat était toujours exactement la même chose. Il y avait des petites variations en termes de race, ethnicité, puis de sexe. Donc, essentiellement, c'était les premières études pour voir le vieillissement puis la charge allostatique. Puis c'était répliqué internationalement. Il y a eu des études au Taïwan, en Allemagne, en Europe. Puis moi, je me suis intéressé de voir ça avec le stress au travail. Donc, on a fait une étude pendant ma maîtrise avec Sonia pour voir le burn-out. Puis on a trouvé que chez une population âgée, pas une population âgée, mais une population travailleurs et travailleuses, qu'une charge allostatique était reliée à plus de burn-out, qui était reliée à des niveaux de cortisol plus bas. Puis ça, c'est une ligne de recherche que je continue actuellement avec un de mes étudiants, Philippe Kerr, qui s'intéresse à voir la relation entre les antidépresseurs et le cortisol et l'épuisement professionnel et aussi la charge allostatique.
Le burn-out puis la dépression sont inversés, je crois, dans le niveau cortisol, c'est
exact.
Ça?
Exact. Donc, dépression, c'est généralement des niveaux de cortisol élevés qu'on voit, puis l'épuisement professionnel, c'est complètement l'opposé.
Tu vois, j'ai toujours pensé que c'était des synonymes, mais pas du tout, finalement.
Mais il y a une forme de dépression atypique qui est reliée à des niveaux de cortisol bas, que je crois est vraiment l'épuisement professionnel. Puis c'est vraiment important, au niveau de psychiatrie, je ne suis pas psychiatre, donc je ne peux pas parler de tout ça, mais j'ai quand même une opinion.
donc je vais en parler.
Ouais, c'est ça. Quelqu'un qui a un arrêt de travail au Québec, généralement, c'est 3 mois d'arrêt de travail. Souvent, quelqu'un va être prescrit des antidépresseurs. Ça prend environ 1 mois avant que les antidépresseurs fonctionnent. Mais les antidépresseurs, par mécanisme de sérotonine, vont diminuer les niveaux de cortisol. Peut-être pas une bonne chose pour quelqu'un avec des niveaux déjà bas.
Okay.
Il y a des chercheurs en Scandinavie qui s'intéressent à donner le cortisol synthétique, donc la cortisone, à des patients qui ont un arrêt de travail, l'épuisement professionnel. Puis qu'est-ce qu'ils voient, c'est que leur cortisol augmente. Mais leurs symptômes d'épuisement professionnel diminuent. Donc, c'est un peu fighting fire with fire.
OK. Mais donc, des fois, on confond les deux, finalement. Quelqu'un pourrait arriver à être en épuisement professionnel, mais est diagnostiqué une dépression puis se donner des antidépresseurs, finalement.
Oui. Mm-hmm. Puis ça, c'est vraiment important, à mon avis, de regarder le cortisol. Mm-hmm. Donc, souvent, les psychiatres vont peut-être dire, ah, j'ai pas le temps de faire un échantillonnage de cortisol. Mais écoute, toute cette perte de temps de donner des médicaments qui fonctionnent pas bien. Donc, ça serait, idéalement, ça serait tellement fantastique si on avait plus de mesures comme le cortisol dans les cliniques pour être capable de vraiment personnaliser l'approche médicale et aussi l'approche psychologique. Je pense qu'il y a certaines personnes qui vont réagir à des thérapies psychothérapeutiques d'une manière différente qui va dépendre sur leur personnalité. Donc, l'important, c'est vraiment d'avoir, dans mon avis, pas juste la bio, mais aussi des questionnaires, d'avoir un contexte social. C'est pourquoi toute la recherche transdisciplinaire est tellement importante. Mm-hmm.
Tu parlais de la charge allostatique qui est un bon indicateur du vieillissement. Puis tout à l'heure, on parlait de plus tu fais face à des stigmas, plus ta charge allostatique est élevée. Est-ce que dans ces études-là qui tracent la charge allostatique, est-ce qu'on a remarqué des différences en termes de déclin ou de d'augmentation de la charge allostatique selon les minorités qui font face à des stigmas?
C'est une bonne question, puis ça, de mes connaissances, ça n'a pas été regardé. Les études qui regardent la charge allostatique avec le temps, on est vraiment juste en émergence. Mm-hmm. Il y avait une étude qui, quand je commençais ma carrière, qui a montré que chez une population âgée, s'il y a eu une diminution de cortisol, une diminution de charge allostatique pour n'importe quelle raison, la santé mentale puis la santé physique allait mieux. C'est pas surprenant, mais c'est cool quand même que même dans une population âgée, on peut voir ce changement. Aussi,
ouais. Mais est-ce que mettons d'être un groupe qui vit des stigmas, est-ce qu'on voit un effet sur l'espérance de vie?
Ah oui, oui, ouais. Absolument.
Okay.
Absolument. Puis la charge allostatique, c'est vraiment intéressant parce que c'est capable de vraiment détecter la mortalité, comme j'ai dit. Puis il y a des études qui ont regardé la combinaison d'être quelqu'un qui est pauvre plus race non-blanc, puis comment ça c'est relié à la charge allostatique, qui est relié à la mortalité. Mm-hmm. Puis on trouvait, je me souviens pas exactement le chiffre, mais d'être noir et pauvre aux États-Unis, ça augmentait ton risque de mourir
plus jeune.
Beaucoup, là.
Beaucoup, beaucoup. Puis, tu sais, c'est vraiment important pour, je pense, les communautés minoritaires de race et d'ethnicité. C'est spécialement important pour la communauté d'Autochtones parce qu'il y a vraiment une diminution. Puis aussi, les populations psychiatriques. Il y a énormément de populations où on a des désavantages. Puis, la charge allostatique nous permet vraiment d'avoir ce index objectif. maintenant, ça demande... Comment on peut diminuer la charge allostatique?
Ouais.
On est vraiment au début de faire des recherches qui s'intéressent à ça. Puis avec mes étudiants, Philippe, que j'ai mentionné, on s'intéresse à voir si la charge allostatique peut prédire qui va répondre mieux aux antidépresseurs ou non et quels facteurs dans la charge allostatique. Est-ce que c'est le cortisol ou est-ce que c'est l'inflammation qui va être capable de prédire tout ça? Mais la recherche qui rentre avec une intervention... Il n'y en a pas beaucoup.
Mm-hmm.
J'ai fait partie d'une avec un collègue aux États-Unis qui regardait l'ostéopathie, mais c'était un échantillon avec deux personnes. On a trouvé une diminution, donc le monde qui subit des traitements ostéopathiques, il y avait une diminution de charge allostatique chez un homme, chez une femme. On aimerait faire ça avec un plus large échantillon. Mais ça serait, le but, finalement, ça va être à l'avenir de voir... comment on peut diminuer une charge allostatique, puis c'est quoi les facteurs qui peuvent le faire. Puis il y a tous les facteurs individuels, il y a tous les comportements de santé individuels, mais il y a aussi un niveau systémique,
mais
toutes
oui,
les
c'est
changements.
Ouais, ouais, ouais. C'est ça qui me frappe, on dirait, de ce qu'on parle, c'est que là, on sait tout ça, on le mesure, on l'observe, on voit sur la mortalité des gens. C'est un peu... Est-ce que ça va être le bout éditorial du podcast, mais on dirait que c'est tellement fâchant qu'il n'y ait rien de plus qui soit fait, sachant tout ça, tu sais. Qu'il n'y a pas plus de mesures, de lois d'action politique, sachant tout ça, tu sais.
Ouais. Je pense une façon d'essayer de comprendre tout ça, c'est sûr que c'est pour... On s'intéresse beaucoup à la vulnérabilité, puis beaucoup de ce que j'ai parlé aujourd'hui, c'est un peu... C'est très doom and gloom d'être une minorité souvent reliée à du stress plus élevé, mais il y a aussi énormément de résilience. Puis ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans mon laboratoire. J'ai deux étudiants exceptionnels.
Quand tu traites de la résilience, juste pour faire la petite parenthèse, quand tu traites de résilience dans ce contexte-là, comment ça se matérialise, mettons?
Donc, la résilience, comme définition que j'utilise, c'est la capacité de faire un rebound après un stresseur.
Ouais.
Puis, essentiellement, pour être résilient, il faut avoir fait face à du stress, à de l'adversité, du trauma. Mm-hmm. L'idée de résilience, c'est qu'on est capable de mieux gérer nos stresseurs à l'avenir.
Mm-hmm.
Puis comme j'ai dit, je pense pour certaines minorités, d'avoir fait face au stigma, à la discrimination, ça fait une charge un peu plus...
Augmente ta résilience.
Exact. Qu'est-ce que je m'intéresse beaucoup dans mon laboratoire, c'est de comprendre les profils de résilience, en plus des profils de résilience, de vulnérabilité, pour... comprendre c'est quoi qui contribue à la résilience. Donc, est-ce que c'est le soutien social? Est-ce que c'est les comportements de santé? Est-ce que c'est les ressources communautaires? Donc, j'ai reçu cette année une chaire de sciences qui va s'intéresser à voir la charge allostatique à plusieurs générations différentes. Donc, moi, je soupçonne que les générations les plus jeunes de la communauté LGBTQ+, n'ont pas les mêmes genres de stresseurs que... le monde 65 ans et plus. Donc, je m'intéresse beaucoup à comprendre les différences de génération dans charge allostatique qu'on pourrait avoir. Puis, toute la recherche que j'ai mentionnée jusqu'à maintenant, j'ai jamais mesuré le stigma vraiment, à part d'une étude pendant mon postdoc. Donc, vraiment d'être capable d'avoir une idée du portrait de l'individu pendant toute leur vie, Ça va être vraiment riche pour comprendre tout ce qui se passe. Donc, j'ai cette étude-là, puis j'ai aussi plusieurs études qui s'intéressent à regarder la communauté transgenre et non-binaire en lien avec le stress, la charge allostatique, puis la cognition. Donc, j'ai une étudiante, Sarah Kelly, qui va avoir un projet qui va axer beaucoup sur la cognition et les hormones sexuelles chez la communauté LGBTQ+, comparé au monde hétérosexuel. Mm-hmm. Puis le but, c'est de regarder la cognition où on sait qu'il y a une différence homme-femme assez marquée. Donc, Sarah va répondre à cette question-là. Puis j'ai un autre étudiant, Mathias Rossi, qui s'intéresse plus à un niveau de réactivité de stress, comme on a fait, comme Sonia en a parlé, de cortisol et aussi de fonctionnement cardiovasculaire chez la communauté LGBTQ+. Puis le but, finalement, avec tout ça, c'est pas pour stresser le monde parce qu'on aime faire ça, mais c'est de vraiment comprendre qui est capable de bien réagir, qui ne réagit un peu avec une réponse exagérée, qui se calme. C'est tout influencé par des facteurs individuels. Je vais donner un exemple. Mon co-superviseur pendant mon doc, c'était Jens Prüssner, qui était un chercheur, c'est un chercheur allemand actuellement. Puis lui s'intéressait de voir qu'est-ce qui pourrait être lié à une réponse de stress où le monde s'habitue. Puis lui a amené du monde 5 fois au laboratoire pour se faire stresser. Puis il voulait voir à quel point le monde était capable de se calmer avec le temps. Puis qu'est-ce qu'il a trouvé? C'était que les hommes qui avaient un estime de soi assez pauvre, assez faible. Donc c'est un questionnaire qui s'appelle le Rosenberg Self-Esteem. C'est un peu niaiseux. C'est 10 questions de ton estime de soi. C'est essentiellement ton self-worth. Mais il était capable de voir ceux qui avaient une estime de soi plus faible avaient... Il était incapable de s'habituer aux stresseurs. Puis lui, quand il est venu à Montréal, puis il a collaboré beaucoup avec Sonia, il a fait l'imagerie cérébrale, puis il a trouvé que le monde avec une estime de soi plus faible avait un hippocampe plus petit qui était relié à une réponse de stress plus augmentée. Donc, c'est comme si d'avoir un manque d'estime de soi qui est affecté par toute notre vie...
Ouais.
Et a un effet sur notre capacité de contextualiser notre stresseur. Donc, c'est trippant comme résultat. Puis, nous, la recherche qu'on s'intéresse, c'est d'aller plus loin, de vraiment comprendre tout ça. Puis, éventuellement, ça serait vraiment fun de faire des études d'imagerie cérébrale pour comprendre comment le stigma affecte la santé de la personne. Puis, comment la personne répond au stress. On peut stresser le monde dans le scanner aussi.
Ouais.
Encore une fois, c'est fascinant de voir à quel point tous ces éléments-là sont interreliés, tu sais, puis tu regardes quelque chose, puis cette chose-là a un effet sur une autre chose, puis c'est vraiment, c'est sans fin, finalement, cette recherche-là. Là.
Et un projet amène à un autre projet,
ouais, c'est
amène
ça.
À un autre projet.
Exact.
Sur une échelle, mettons, je sais pas de quoi à quoi, là, mais est-ce qu'on est, somme toute, avancé dans la recherche sur le stress, ou on est encore arriéré par rapport à d'autres champs de recherche, mettons. Je sais que la question est extrêmement floue, là, mais est-ce que toi, t'entrevois qu'il y a des grandes découvertes qui s'en viennent par rapport au stress, ou est-ce que l'essentiel a été découvert, puis là, ce qui reste, c'est à peaufiner certains aspects, mettons?
C'est une super question. C'est un peu une question existentielle.
Ouais, existentielle pour des gens comme toi qui travaillent dans ça.
Ouvage.
Moi, personnellement, pour répondre à cette question... À un niveau personnel, comme chercheur, je suis très bon à détecter qui est stressé, qui va être stressé, qui va donner des problèmes, mais qu'est-ce que je fais après ça? Donc, tout le volet de, OK, être capable de détecter qui est stressé, qui va être stressé, c'est une chose, mais qu'est-ce qu'on fait après ça? Puis tout ce volet d'intervention, d'aspect plus clinique, il y a du monde qui en fait, mais le mélange d'intégrer des biomarqueurs, c'est un peu... Il n'y a pas assez qui a été fait jusqu'à maintenant. Je pense que notre connaissance du mécanisme de stress puis la physiologie, tout ça, c'est super bien raffiné. Tu sais, on est rendu à un point où on peut regarder les gènes puis les épigènes, puis on est quand même avancé. Sauf que ça reste que le stress chronique, c'est un pot-pourri pour n'importe quelle maladie en dessous du ciel. Donc, comment est-ce qu'on peut raffiner nos questions de recherche pour être capable de mieux prédire qui va développer quelle maladie? Puis je pense que ça va être vraiment... avec ces perspectives plus individuelles, d'être capable de voir toutes les constellations de génétique, d'environnement, de coping strategies, de résilience, qui va être capable de savoir quel est le profil d'une personne versus un autre. une question un peu fondamentale que je veux être capable de répondre avec ma propre carrière, c'est que est-ce que n'importe quel stigma va avoir le même outcome en mm-hmm. termes de stress? Donc, est-ce que le racisme va avoir le même signature biologique ou le même scarring
que l'homophobie, maintenant.
Que l'homophobie ou la transphobie ou le sexisme ou le ageisme? Puis moi, personnellement, je pense que la réponse, c'est que ça va être différent dépendamment sur le sous-groupe qu'on regarde. Puis même juste à l'intérieur de la communauté LGBTQ+, il y a énormément de variations d'un sous-groupe à l'autre. Puis, tu sais, juste parler de la communauté transgenre, il y a énormément de variations. Donc, transgenre, non-binaire, mm-hmm. ceux qui transitionnent, ceux qui ne transitionnent pas, il y a énormément de variations. Puis, je pense, le grand public a souvent, on s'obstine que, il y a trop de lettres dans ce LGBT. Mais la réalité, c'est que on veut donner la représentation. Mm-hmm. Puis, beaucoup des travaux que je fais dans mon laboratoire, c'est de rentrer avec la communauté pour faire de la recherche qui a de l'allure pour eux. Donc, j'ai une de mes étudiantes, c'est Ophélie Larocque, qui a une étude actuellement qui s'intéresse à faire des entrevues avec la communauté transgenre pour leur demander c'est quoi les stresseurs pour eux, c'est quoi la résilience, c'est quoi la santé, c'est quoi le bien-être, et de présenter toutes les méthodologies qu'on utilise dans la neuroscience pour voir est-ce que ces approches alignent avec vos besoins, est-ce que vous pensez que cette ligne de recherche peut amener quelque chose à vous, puis on est en recrutement, donc s'il y a du monde qui s'intéresse, ça serait cool. Puis juste rentrer ça aussi, on a une étude sur la COVID, puis ça revient un peu à ton commentaire sur le vieillissement. Il y a un concept super intéressant puis que je veux vraiment mastiquer cette année, c'est crisis competence, donc la compétence face à la crise. Puis c'est un concept qui a été développé pour parler vraiment de la communauté gay, bisexuelle, transgenre, plus vieux, qui ont vraiment fait face à la réalité du VIH puis la sida. Est-ce que c'est du monde qui va être vraiment largement affecté par la pandémie? Ils ont déjà fait face à quelque chose de beaucoup plus pire. Donc, nous, on s'intéresse, on a une étude qui s'appelle Coronavirus Crisis Competence. On peut le faire en anglais ou en français. Puis on fait un échantillonnage de tout le monde de la communauté. On a jusqu'à maintenant 3200 personnes. Puis on s'intéresse à voir vraiment le mélange de sexe biologique, puis le genre socioculturel, puis l'orientation sexuelle en lien avec la santé mentale, les stratégies d'adaptation, puis la résilience face à la pandémie. Puis le but, ça serait pour le monde qui sont à Montréal, qui acceptent d'être contactés à l'avenir pour d'autres études, de les intégrer dans nos études plus bio pour voir le stress pendant la pandémie, comment est-ce que ça se manifeste pendant le temps sur le fonctionnement physiologique.
Puis si quelqu'un nous écoute et est intéressé à vouloir participer à ces études-là, est-ce que c'est possible?
Oui, absolument.
Puis qu'est-ce qu'ils font? Où est-ce qu'ils vont?
Donc, sur Facebook, c'est labo.cesar, C-E-S-A-R.juster, J-U-S-T-R, qui est mon nom de famille. Donc ça, c'est notre page Facebook, puis aussi mon Twitter qui est rob_paul_juster. En effet, on a plusieurs études. Donc, il y a Silka Yakmin-Parkman qui fait une étude sur la COVID. Il y a Ophélie qui fait l'étude sur la communauté trans. Puis, on a aussi Emma Fedel qui fait une étude chez les femmes en couple avec femmes pour comprendre un peu la violence conjugale. Mm-hmm. Puis, on a tout ça. Ça va être tout sur le Facebook. Je peux aussi vous donner le lien.
On va le mettre en description.
Ouais.
C'est vraiment fascinant. Moi, j'aurais peut-être une dernière question à finir. Je change un peu de sujet. Je me questionne sur un mot qu'on entend beaucoup qui est le mot anxiété, mettons. Là, j'ai l'impression que beaucoup de gens en souffrent, ou du moins beaucoup de gens disent en souffrir. Tu sais, je fais de l'anxiété, ça c'est anxiogène, nanana. C'est quoi la différence finalement entre l'anxiété et le stress?
Donc, je pense que vous devrez inviter Marie-France Marin, je l'ai dit avant.
OK. Quand on va faire un part 3.
Ouais, je pense à chaque podcast qu'on fait, on se fait suggérer un autre invité. Ah. Ça va être sans fin.
Tu sais, Marie-France, on était étudiants en même temps avec Sonia. Puis Marie-France s'intéressait beaucoup sur la réconsolidation des mémoires. Donc, comment. c'est super compliqué, je vais laisser expliquer. Mais elle s'intéresse beaucoup à cette question de peur et d'anxiété en lien avec le stress. Puis elle a un laboratoire qui s'appelle le STEAM Lab, qui Stress, Trauma, Emotions and Memories. Puis elle a des études actuellement qui s'intéressent vraiment à comprendre le mécanisme d'anxiété à un niveau intergénérationnel aussi. Je pense que le stress, comparé à l'anxiété, c'est un peu la peur d'avoir du stress. Donc, l'anxiété est vraiment axée plus vers l'avenir, puis toutes les possibilités. Puis, comme Sonia a dit, c'est un peu un vestige de notre évolution, du monde qui se préparait.
C'est plus la projection du futur, d'un stress futur, plus que la réponse de stress immédiate, finalement.
Exactement. Mais pour du monde qui ont subi un trauma auparavant, c'est sûr que ça, tout le temps, le passé, le présent, l'avenir, ça devient un peu tout mélangé. Okay. C'est définitivement les mêmes genres de mécanismes, mais c'est assez nuancé. Puis beaucoup de la recherche que Marie-France fait s'intéresse beaucoup aux mécanismes qui sont plus reliés à l'adrénaline que le cortisol. Elle regarde le cortisol aussi.
Okay.
Je pense que ça serait la meilleure personne à vraiment répondre à cette
question. Est-ce que tu as l'impression que des fois le public mélange les deux?
Oui, absolument.
Comme
quelqu'un stressé n'est pas quelqu'un nécessairement
anxieux. Anxieux,
ouais.
OK.
Ouais.
C'est super. Merci infiniment pour cette conversation-là.
Très intéressant.
Ouais, vraiment beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci. Yeah.